Bon, merci tout le monde. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 pour ceux qui n'étaient pas branchés au Point de Max, pour ceux qui l'étaient, bien, c'est une continuité. C'est votre émission On en jase, votre émission d'actualité du midi. On met toujours l'emphase sur l'actualité locale. D'ailleurs, on va parler beaucoup de cette annonce. Et on aura le maire de Québec à 13h. On l'a pour un 10 minutes. Très gentil de nous accorder ce 10 minutes, car il y a deux annonces importantes cet après-midi aussi pour la Ville de Québec. Alors, de 13h à 13h10, on a le maire avec nous. On va se lancer dans un petit concours avec vous dans quelques instants. Vous rappelez que c'est 418-971-1021, le numéro pour nous joindre en studio. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est une belle façon de nous écouter. Il y a les meilleurs moments qui s'y retrouvent. L'entrevue avec le maire de Québec va s'y retrouver d'ailleurs après l'émission. Vous avez aussi notre application que vous pouvez télécharger au BLVD 102.1, c'est sur App Store et Google Play Store. Et si vous avez un haut-parleur intelligent, vous êtes écouté BLVD 102.1. Comme je fais à chaque après-midi quand je me lève de ma petite sieste pour écouter la gang de Denis Gravel dans Le Retour. Antonine Iaccarini, tu veux dire quelque chose?
Faut pas dire Boulevard FM à nos machines. Sinon, c'est quoi donc? Où ça nous mène? Ça nous mène à une autre radio.
Oui, ça nous mène à une autre radio. Ou même, moi, quand j'ai juste écouté écouté 102.1 ou écouté BLVD, ça me mène à une espèce de playlist.
Oui, c'est ça. Non, il faut vraiment musique, dire là. Ce que tu dis.
Ouais, BLVD 102.1.
En plein ça. Vous dites ça, puis merci, bonsoir. C'est réglé. Parlant de régler, ben coudonc, le financement du tramway est réglé selon notre maire de Québec qui nous avait dit que c'était réglé, mais là c'est encore plus réglé. On écoute sa réaction sur les ondes d'LCN hier.
Pérus disait être heureux jusqu'à ce que les plafonniers fleurissent, qui poussent des fleurs partout. Moi, je suis aujourd'hui comblé. Le projet avait son financement, mais maintenant, on a la part du fédéral qui manquait, donc la part qui a eu lieu, qui a été donnée dans d'autres projets de transport collectif. Donc, c'est une extraordinaire nouvelle. Le projet avance. La Ville de Québec va bien, l'économie va bien, et ça va juste continuer. Alors, je peux pas être plus heureux.
Antonine Iaccarini, as-tu déjà entendu un maire aussi heureux?
Peut-être.
Il est vraiment content. Puis je le comprends, parce que c'était son projet fort. Il a été élu avec 18 conseillers, puis là, il y a enfin le financement du fédéral. Je le comprends d'être heureux.
Puis c'est des gros montants, parce que j'essayais de réfléchir historiquement à des nouvelles comme celle-là, puis ça n'arrive pas si souvent.
10 milliards.
C'est des bons montants.
Oui, c'est ça. C'est un méchant bon transfert. On vous l'a dit, 13h, on a le maire Marchand sur nos ondes. Et ce qu'on veut faire, on veut faire un peu différent que quand le maire Marchand est dans le retour, lorsque le maire Marchand est dans le retour, parce que, tout simplement, on ne veut pas toujours faire les mêmes entrevues à Boulevard. Alors, Mathias et moi, on a eu l'idée d'un concept très original. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser vos questions au maire Marchand. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est faire l'entrevue du peuple.
Parce que, veux pas, moi j'ai l'occasion de le questionner souvent sur le terrain, sur les différents sujets. Toi, Jeff, t'as eu l'occasion aussi par le passé, mais
exactement.
On fait de la radio pour vous, puis vous avez pas nécessairement la chance qu'on a d'avoir les élus ou encore le maire de Québec directement devant vous. Ben là, on vous la donne. Sur un plateau d'argent.
Exactement. On veut poser vos questions. En 10 minutes, on aura le temps d'à peu près 5-6 questions différentes. On prend le temps de la question, le temps de la réponse. On veut avoir vos questions. Évidemment, tu sais, il y a une question qu'on ne posera pas. Là. Pourquoi, M. le maire, un tramway? Là? Parce que là, on est rendu ailleurs. Il est financé. Ça a été décidé par les paliers de gouvernement. Par contre, je vous donne un exemple d'une question que j'ai bien aimée ce matin qui est rentrée justement de Jonathan. Puis écrivez votre nom avec la question, s'il vous plaît. Je veux vraiment nommer votre prénom au maire. Il ne trouve pas agaçant le maire de dire qu'il y a de l'argent du fédéral sur la table qu'il faut en profiter lorsqu'on sait pertinemment qu'on est endetté comme pas possible et que le pays est en récession technique. Je trouve que c'est une bonne question. Il en pense quoi, le maire Marchand, de cette récession technique-là? Il en pense quoi, justement, de ces programmes de financement n'en plus finir avec les dettes qu'on a au Canada, au Québec, une dette à rembourser aussi pour la Ville de Québec? Alors, je trouve que c'est une bonne question. Donc, allez-y, 418-971-1021. Lancez-vous, justement, dans vos questions, parce qu'on dit souvent... Ben, écoutons, le maire, il me semble, il n'écoute pas ses citoyens. Il me semble, le maire ne répond pas aux questions de ses citoyens. Donc, vous avez l'opportunité. Bon, Steve nous écrit comment va Monique. Wow, on peut y poser un joke, mais...
Ah, je pense que c'est pas... c'est pas le type de question qu'on va sélectionner, mettons. Là. On a Christian. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Oui, bon.
Oui, c'est ça.
On s'entend que ça va pas être ça non plus qu'on va demander.
Donc, allez-y, posez vos questions. Toi, Antonine, tu poserais quoi comme question au maire Marchand si tu participais à l'entrevue?
Je pense que je voudrais savoir, maintenant qu'il y a l'impression que le projet de tramway s'est réglé, on s'entend, là, ça va prendre encore beaucoup de place, mais ce serait quoi l'autre projet fort pour lui? L'autre projet qui lui tient le plus à cœur.
J'adore ça. J'adore ça. Mathias, tu nous prends ça en note, hein, les questions? J'adore la question d'Antonine. Toi, Matt, tu irais avec quoi comme question pour le maire Marchand, même si tu le questionnes souvent?
Question très simple à propos du financement du fédéral. Je pense que c'est la question à poser aujourd'hui. Est-ce que le financement du fédéral était... Vous dites que le financement du fédéral était assuré depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Pourtant, là, vous semblez dire que... On vient d'avoir la confirmation qui est finalisée. C'est quoi ce... Qu'est-ce qui explique ce décalage-là, en quelque sorte?
Exactement. C'est la même question que Kim, un de nos auditeurs. Donc, on va poser cette question-là. Puis, sais-tu quoi? On va commencer l'entrevue avec cette question-là. Parce que je pense que c'est la question que tout le monde a sur le bout des lèvres de se dire... Coudonc, le maire Marchand, nous as-tu menti pendant des mois en disant « Faites-vous-en pas, le financement est réglé. Faites-vous-en pas, on coupera pas des arbres pour rien. Faites-vous-en pas, faites-vous-en pas. » Alors que là, hier, c'était vraiment la grande fête parce que oui, c'est vrai que le commentaire a été fait. « Hey Steve, j'aime ça. Comment va la relation avec Stephen Blaney? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Québec et Lévis retravaillent ensemble prochainement? » J'adore. Question hyper constructive. Question où on se projette dans le temps. J'aime vraiment cette question-là de Steve sans l'ombre d'un doute. Est-ce que dans le budget 2026, on considère l'augmentation probable des policiers sur leur nouvelle convention collective? Ont-ils prévu le coût ou l'argent prévu pour 2026 est déjà dépensé avant d'avoir le verdict de l'arbitre? C'est une très bonne question aussi au niveau des finances publiques. Juste la personne, l'auditeur qui a écrit, l'auditeur-auditrice, juste rajouter ton nom, s'il te plaît, ça serait... Très, très, très apprécié. Il y en a qui disent pas de perte de temps sur Monique. Ouais, Carl, c'est plus une question sur la séparation du Québec. Là, il arrive quoi si le Québec est séparé pendant que le tramway se fait? Parce que ça se pourrait que ça arrive 2026, ce qu'on va lire
le PQ. C'est pas une mauvaise question, honnêtement.
C'est une bonne question. On va la poser au moment marchand.
Ouais.
C'est une très bonne question, Carl, parce que 2026, arrivée du PQ. Il a dit un référendum dans le premier mandat. Fait que, mettons, on le met à la fin du premier mandat, 2030. Bingo, le référendum passe. Mais le fédéral, comme Carl dit, puis c'est vrai, il paye sur facture.
Bien, c'est ça. Puis ça démontre la complexité des négociations qui suivraient un référendum.
Ah, en effet. T'as entièrement raison, Antonine. Hey, bonne question, ça. Est-ce qu'il y a des changements de prévus pour le déneigement l'an prochain? Mon côté, c'est vraiment catastrophique. C'est Simon qui nous pose ça. J'adore ça. C'est une belle question d'intérêt, d'opération. On le sait, la ville avait changé, justement, sa façon de faire dans le déneigement. Au lieu de sortir à 5 cm au sol, on sortait à 7 cm au sol. Ça a amené une explosion de plaintes. Est-ce qu'on va revenir de l'arrière? Excellente question de la part de Simon, franchement. J'adore. Et vous êtes sur la coche, les auditeurs. Vraiment. Ici, on a une question aussi. On a de la misère à entretenir ce qu'on a déjà. Comment un tramway peut revenir moins cher à long terme et ne pas augmenter les dépenses de transport à la communauté? Ouais, puis si tu, si l'auditeur, l'auditrice permet, moi, Mathias, je la twisterais peut-être avec... On l'a-tu, ce fameux plan-là de rattrapage de nos infrastructures? On va-tu l'avoir? Ce plan-là de rattrapage de nos infrastructures, outre le fait de dire au gouvernement provincial, ça nous prend plus d'argent. Moi, j'aimerais ça le voir, le plan de la Ville de Québec. C'est sur comment d'années pour revenir. Puis là, ben, on pourra demander des subventions s'il faut demander des subventions, mais je veux ce plan-là.
Ben, c'est un peu ça que l'exercice du bilan des actifs, si je me trompe pas, là, qu'on a fait il y a de cela quelques mois, qu'on a dit voici 5,5 milliards que ça nous prend pour 10 ans. C'est un peu ça qu'on fait à cet exercice-là. Donc, on l'a en partie, mais en même temps, il nous manque beaucoup d'argent sur cet exercice-là, puis ouais. On sait pas à quel point c'est précis non plus. Fait que non, ça peut être une question intéressante.
Puis à quel point la Ville peut investir dans ses infrastructures, en évidemment délaissant des choses, parce qu'on pourra pas trouver de l'argent à terre autre que de taxer plus les citoyens, puis ça, ben, je pense pas qu'il y ait vraiment d'auditeurs qui veulent ceci.
D'après moi, personne ne va être pour ça, mais... sais, ça, c'est intéressant la question parce que de mettre en opposition des nouveaux projets avec l'entretien et le maintien des infrastructures. Bon, moi, je suis très contente qu'on ait maintenant cet enjeu-là, qu'on l'ait mis de l'avant dans les derniers mois, puis que ça devienne même un enjeu électoral pour la prochaine campagne provinciale, de dire avant de... Tu sais, le syndrome du découpage de ruban, là, au lieu de faire des nouvelles infrastructures, entretenir les anciennes. Mais il ne faut pas non plus... Il faut pas en faire un faux dilemme non plus. C'est possible qu'on ait besoin de nouvelles infrastructures.
Exactement.
Mais puis en plus, c'est que... En fait, je pense que les villes vont devoir, comme tous les paliers de gouvernement, avec, après chaque nouvelle infrastructure, nous déposer aussi un plan de maintien et d'entretien qui soit chiffré et qui soit obligatoire, en fait. Mm-hmm. Que ça devrait faire partie du budget. Puis nous, on devrait l'exiger comme citoyens. De pas juste combien ça va coûter le projet jusqu'à ce qu'on découpe le ruban. Combien ça va coûter pour la suite des choses.
Oui, en entretien, on a eu une excellente entrevue. C'est disponible sur le blvd.fm avec un professeur du HEC à Montréal, Éric Lachance-Tremblay, aujourd'hui, justement, qui parlait que c'est ça le problème au niveau provincial de la dette sur nos infrastructures, c'est qu'on ne planifie pas bien l'entretien préventif.
Ben, c'est ça.
Fait que là, on fait juste patcher quand on est rendu à catastrophe.
Oui, puis les politiciens n'ont pas d'intérêt à le faire. Parce que tu te dis, c'est pas moi qui vais gérer ça. De toute façon, je serai même plus là à ce moment-là.
C'est vrai, t'as raison. Ça s'applique pour le mandat de 4 ans. Très bonne question d'Éric. Mathias, il faut la prendre en note. Est-ce que le maire a une solution concrète applicable pour l'itinérance? On s'en met encore en mode consultation.
Consultation, puis demande auprès du gouvernement provincial. Puis je tiens à dire, c'est normal qu'on le fasse du côté des municipalités, surtout pour l'itinérance, qui est quand même une responsabilité provinciale. Sauf qu'à un moment, il faut que tu contrôles ce que tu contrôles aussi, puis il faut que tu mettes des solutions dans la cour que
Exactement.
Tu contrôles. Donc, quelles sont ces solutions précises que lui peut mettre en place sans nécessairement dépendre d'un financement supérieur du provincial, par exemple?
Oui, puis vois-tu, ça me fait penser, moi, en sous-question, tu sais, là, on défait les campements, mais on fait quoi avec les itinérants qu'on a scrappé le campement?
Parce qu'il faut qu'il aille quelque part,
ben,
de toute façon.
On attend qu'il refasse un autre campement, puis on scrappe le campement, et on fait quoi? Parce que là, il était dans le parc Jean-Paul Lallier. Il était plus là, il était en dessous des bretelles d'autoroute du frein. On a enlevé ça en dessous des bretelles d'autoroute du frein. Mais là, on sait-tu sont rendus? On sait-tu? Sont-tu allés dans des ressources, justement? Est-ce qu'ils ont dormi à l'Aube-Rivière, par exemple? Est-ce qu'on fait le suivi de ces personnes itinérantes-là? Oui. Ou sinon, ben là, à un moment donné, là, je nomme un endroit comme ça au hasard, mais à un moment donné, on va retrouver à Beauport. Parce que là, à force de s'être fait scraper leur campement, ils vont se retrouver plus éloignés, mais s'ils sont plus éloignés, pas accès aux services.
Est-ce que la stratégie, c'est de faire en sorte justement que les campements se déplacent? Parce que le problème avec les campements, c'est à un moment donné, ça devient dangereux.
Oui, au niveau sécurité, au niveau incendie, au niveau...
Mais ça serait intéressant de savoir c'est quoi effectivement l'idée derrière. C'est quoi la vision en arrière de ça?
C'est ça.
On essaie d'envoyer le monde le plus possible vers les ressources? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Ou est-ce qu'on défait les campements juste à l'infini en attendant que la crise du logement puis la crise de santé mentale se règle?
Bien, exactement, parce que moi, je me dis, c'est beau de faire les campements, puis tu sais, je suis pour ça parce que je crois que si on veut sortir les gens de la rue, bien, premièrement, pour l'aspect sécurité que tu dis, Antonine, puis si on veut sortir les gens de la rue, bien, il faut les amener vers nos ressources pour que là, des gens les prennent en main. Mais si on fait juste défaire le campement, mais qu'il n'y a personne, il n'y a pas de travailleur social qui est là ou quoi que ce soit pour dire, hey, viens! Viens à l'Aube-Rivière, viens au répit Basseville, on va prendre soin de toi, on va te donner à manger, on va prendre une douche.
C'est un bon point, parce que quand il y a un campement, on sait où les trouver.
C'est ça.
Mais après
sont
ça...
Là. Exactement. T'sais, c'est un peu comme du travail de rue chez les adolescents. Par exemple, c'est Rap Jeunesse qui fait un excellent travail dans la région de Québec là-dessus. Puis moi, je vais donner l'exemple du Patro Charlebourg. Je suis allé au Patro Charlebourg. On le sait, les jeunes se réunissaient sur les terrains du Patro, Polyvalente, Cégep, Limoilou, l'été. Puis là, ils chillaient là, puis là, ils partaient un petit feu, puis là, ils pétaient une bouteille de bière, puis là, il y avait une bataille une fois de temps en temps, puis ainsi de suite. Bien, les travailleurs de rue étaient au parfum de ça, donc ils allaient voir les jeunes. On a justement fait quoi de beau? Des terrains de basket, une pump track, et là, il y a un nouveau skate park qui est en discussion. Donc, on a fait quoi de beau pour que les jeunes se retrouvent là, puis là, bien, ça permettait aux travailleurs de rue d'aller les voir. de prévenir les méfaits, de les envoyer vers des ressources, parce que là, des fois, tu vas entendre parler justement un adolescent de « Ouais, mon père me bat à la maison. Ouais, il arrive telle affaire. Ouais, moi, je fume trop de potes. » Puis là, ben, on les envoie vers les bonnes ressources après. Donc, est-ce qu'on fait ça avec les personnes itinérantes? C'est vraiment une question là, que j'ai pour le maire Marchand. Merci, guys. 418-971-1021. Vous avez super bien collaboré. Donc, on fera cette entrevue du peuple à 13h tout à l'heure.
J'ai pris de tout en note. Si jamais il y a quoi que ce soit pendant l'émission qui vous vient
exactement.
En tête, faites juste écrire que c'est une question pour le maire et je vais la rajouter à la liste.
Merci beaucoup, Mathias Surcotte. Tu fais un excellent travail. En manchette, Mathias, avant de passer au caucus.
Les États-Unis reviennent en force avec des menaces de tarifs douaniers. Notre voisin du Sud qui voudrait viser 45 pays au total, dont le Canada, la Chine, plusieurs pays de l'Union européenne et le Mexique, pour mettre en place des tarifs entre 10 et 12,5 %. La raison, les économies en question ne feraient pas suffisamment d'efforts pour combattre l'importation de biens issus du travail forcé. Du moins, c'est l'excuse qu'on a trouvée du côté de l'administration de Donald Trump pour utiliser une loi sur le commerce qui date de 1974. On a eu différentes réactions dans le monde politique ici. Carney qui dit que ce n'est pas une surprise, que les États-Unis planifient depuis environ un mois. Christine Fréchette qui dit notamment vouloir un cadre stable à l'économie avec les tarifs le plus bas possible. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a demandé au CRTC de revoir à la baisse ses redevances supplémentaires qu'il voulait imposer aux géants américains comme Netflix et Prime Video. Cette demande survient alors que le Canada a rencontré les États-Unis hier concernant notamment les tarifs douaniers et l'accord des négociations pour la CE. Les États-Unis qui avaient publiquement décrié la hausse de 15 % des redevances qui étaient prévues aux diffuseurs américains, identifiant la politique comme une barrière majeure aux négociations. Et je termine avec Simon Jolin-Barrette, qui a rappelé l'importance d'adopter la Constitution du Québec aujourd'hui. On est dans le dernier droit de la session parlementaire du côté de l'Assemblée nationale et le temps commence à presser pour la CAQ, le ministre de la Justice, qui a accusé les partis d'opposition de partisanerie et de ralentir les travaux parlementaires.
Les vrais enjeux expliqués.
Le caucus avec Antonine Iaccarini qu'on fait du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Anto, avant de parler de constitution, parce que Simon Jolin Barrette a lancé un appel aux oppositions tout à l'heure qu'on va entendre, je veux te parler de la double personnalité de Christine Fréchette. Savais-tu ça?
Non.
Elle est bipolaire. OK? Non, je te le dis. Check bien ça. Alex Boissonneau du PQ.
Ben, moi, je l'ai dit, c'est la CAQ rouge comme Jean Charest. C'est
Jean Charest.
La CAQ qui est un parti libéral 2.0. Mm-hmm. C'est essentiellement ce qu'on est en train de voir, puis on en a une autre démonstration. Moi, je vous dis, de voir Christine Fréchette dire que le Québec n'a pas toujours été un bon partenaire sur un podium avec
une pancarte
rouge qui était, où il s'est écrit « Bâtir un Canada fort ». Je trouve quand même que c'est une image qui est parlante.
Ah, fait que là, j'ai entendu ça, j'ai dit « Ben, coudonc, Christine Fréchette est fédéraliste. »
Elle est rouge.
Ouais, elle est rouge. Marc Tanguay du PLQ.
Madame Fréchette n'est pas capable de dire qu'elle voterait non à un référendum. Madame Fréchette est séparatiste.
Hein?
Madame Fréchette, là, si elle est élue, là, je veux dire, là, si avait un référendum, ouais. Ben, voterait oui, Madame Fréchette.
Ah, ouais?
Alors là, Madame Fréchette, là, a besoin d'avoir quelque chose sous la main, là. Puis là, regarde la troisième voie, là, finalement, je vais être constructive, je vais tendre la main. Elle l'aura fait pendant quelques semaines, puis il y a eu des résultats.
Ah, puis il y a eu des résultats. Ça se peut-tu que...
Oh, mon Dieu!
Je leur fais jouer?
Non, okay, surtout parfait. Pas.
Ça se peut-tu que Christine Fréchette vienne de frapper le coup de circuit qu'elle avait besoin avec cette entente-là? Là? Parce que moi, quand j'ai vu se déchirer sur « est rouge et bleu », mais pas parler de l'entente, c'est parce que là, elle a gagné sur toute la ligne.
Je suis très curieuse de savoir, les auditeurs, est-ce que ça les intéresse de savoir... Est-ce que Christine Fréchette vote oui ou non dans l'urne? Là? Mettons, là, il y a un référendum. Mm-hmm. Clairement, la CAQ n'en organisera pas de référendum.
Non.
OK, Marc Tanguay peut se calmer. Là,
si... oh, oui.
C'est assez clair. Là. Il n'en veut pas.
Moi, ce qui m'a fait très dans son extrait, c'est qu'il termine en disant « Puis là, elle a des résultats. » Ben voilà, elle a des résultats.
Pourquoi il dit ça? Hey, c'était confus comme message.
Oui, puis là, j'aurais pu le laisser rouler parce que là, les journalistes en rembarquent là-dessus. Ouais, là, vous dites qu'il y a des résultats. Fait que pourquoi la troisième voie ne marcherait pas?
C'est embourbé.
Oui, mais là, elle est séparatiste. Mais non, mais elle n'est pas séparatiste. C'est dans le CAQ. T'sais. Fait que là, c'est embourbé. Là, tu comprends? Ça n'a pas été son meilleur 2 minutes à vie.
Non, c'est ça. Donc, je suis curieuse de savoir si. Les électeurs sont aussi binaires sur la question nationale que la classe politique.
Hey, en
Parce que c'est très inconfortable pour la CAQ, la question. Ils ont l'air mal à l'aise. Bon, il y a eu l'histoire avec Jean Boulay qui a dit qu'il était dans le camp du non. Après ça, Mathieu Lacombe, ministre, autre ministre caquiste, qui a dit qu'il était dans le camp du oui. Puis ça a mis la CAQ un peu mal. Mais est-ce que les gens, ça les intéresse vraiment ça puis ça les préoccupe? Est-ce que c'est si compliqué que ça comme message que la CAQ, ça se peut qu'il y ait des gens qui votent oui ou qui votent non s'il y a un référendum, mais qui n'en veulent pas de... Moi, du coup, je suis capable de le comprendre. Fait que j'imagine, ouais. je respecte mais... l'intelligence des gens. Je pense qu'ils comprennent aussi.
Continuer à interagir, mais jusqu'à présent, je te dirais que c'est 100% de gens qui disent
ils comprennent?
Je m'en fous.
Ben, c'est ça!
M'en fous qu'il va voter oui, qu'il va voter non à CAQ. Tu sais, les gens présentement, là, ce qu'ils veulent, là, c'est leur portefeuille.
Ben, je vais même
c'est
aller plus loin.
De la vie.
Quelqu'un que ça y fait peur que Christine Fréchette, peut-être, dans le fond d'elle-même, voterait oui, d'après moi, il vote déjà libéral.
Oui.
D'après moi, il...
Ben,
il
exactement. Déjà... Exactement. Ouais. Puis moi, personnellement, en tant qu'électeur, m'en contrebalance qui voterait oui, qui voterait non à CAQ. Toi, tu vas la job pour moi? Oui, parfait, t'auras peut-être mon vote. T'sais, là, c'est sûr que mon déficit de crédibilité avec la CAQ a été très entaché
oui,
par les
ça,
8
c'est
dernières
un autre
années.
Enjeu.
Mais ça, c'est un autre enjeu. Mais à savoir, t'sais, une troisième voie, savoir qui est souverainiste, mettons, on le reprend dans sa plus simple définition. Je suis une troisième voie. Fait que, tu sais, je veux pas être Papa Canada, mais je veux pas être non plus souveraineté du Québec. Ben moi, ça me parle beaucoup. Puis à travers de cette voix-là, je m'en fous qu'il va voter oui ou non.
Mais t'as mis le doigt dessus, Jeff. Si t'étais Marc Tanguay, est-ce que tu dirais « Ah, oh, t'sais, Mme Fréchette, là, elle va voter oui, là, attention », ou tu dirais « La CAQ, ça a été une catastrophe économique ».
Ben, si je dirais bien plus « La CAQ, ça a été une catastrophe Hello. Économique ».
Hello!
Mais ben est-ce que les partis, présentement le Parti libéral et le Parti québécois tentent justement qu'on fasse juste retomber dans un débat sur... le référendum
ben
pour
oui.
justement juste pouvoir tasser la CAQ puis que la CAQ soit exclue de ce débat-là?
Mais moi, je trouve pas que c'est une bonne stratégie parce que je pense que le principal boulet de Mme Fréchette, c'est le passé.
Oui.
Donc, si j'étais à leur place, je ne ferais qu'associer Mme Fréchette à François Legault. Et je dis ça avec beaucoup... Tu sais, moi, M. Legault, je le respecte beaucoup. Mm-hmm. Je sais qu'il est usé puis que les gens sont tannés. Mais vous savez, j'ai toujours dit que je pense que l'histoire va quand même retenir des choses positives de M. Ouais. Legault. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment... Ça n'avantage pas Mme Fréchette mm-hmm. de se faire rappeler le passé, de se faire rappeler les dossiers qu'elle a portés quand elle était à l'économie ou que son collègue Pierre Fitzgibbon a porté à l'économie. Moi, il me semble que ça, c'est plus efficace. Puis les gens vont se dire « Ah ben oui, c'est vrai, on les haït, eux autres. » J'exagère un peu.
Non,
pour
non, mais c'est pour ça que je dis qu'hier, elle a frappé un coup de circuit. Parce que la semaine passée, c'était facile de la ramener à François Legault. Elle avait ressorti le chèque.
Mais moi, c'est de raison. C'est un cadeau qu'ils ont fait. C'est pas un bon angle. Puis aussi, autre point là-dessus. J'écoutais le PQ hier, puis tu sais, c'est sûr, les médias, des fois, m'ont retenu juste un bout de ce qui était dit. Là. Okay? Puis là, je lisais les grands titres à la fin de la journée. Là.
Ouais, mais moi, je l'ai écouté au complet à la conférence de presse de Paul Saint-Pierre
dans
mon nom hier.
Je trouvais que le PQ parlait beaucoup du PQ.
Oui.
Bien, c'est parce que là, parler aux électeurs, parler des électeurs.
J'aime tellement ça que tu me dises ça, parce qu'il m'a marqué hier de la conférence du PQ. Là. Ouais, mais là, attends deux minutes, là. La CAQ, ils en ont-tu annoncé des candidats? Nous autres, on est rendus à 49. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
Mais t'as pas besoin de le dire, on le sait. Puis nous, ben, les analystes,
ça.
On n'arrête pas de le dire.
Mais oui,
c'est
mais,
sûr.
Mais t'es en bout de ligne, il va en avoir 125 dans chaque parti.
Ouais, mais si, moi, je trouve ça quand même intéressant en spin. Dans le sens, mettons, il y a des spins d'opinion.
Oui, je comprends.
Puis ils vont dire, hey, nous autres, on est rendu à 30 candidats. Ça dit quelque chose sur le niveau d'organisation.
Mais là, comme d'être obligé d'amener ça parce que Christine Fréchette allait faire une annonce de 10 milliards avec le Canada.
Et autre point qu'il a dit, c'est Mark Carney essaie de nuire
oui.
au PQ. C'était à propos de lui. Là. T'sais, honnêtement, un peu moins de temps à parler du PQ qui se fait espionner puis du PQ qui se fait enfiroiper par Mark Carney. Un peu plus de temps à parler des gens, de leurs préoccupations, de souveraineté. Pour vrai,
ben oui.
C'est super pertinent de parler de souveraineté aussi quand on est un parti
Est-ce que quand on est souverainiste, on est trop victime? T'sais, parce que quand j'écoute Paul Saint-Pierre Plamondon, il est victime
question.
D'espionnage. Il est victime des décisions de Mark Carney, qui veut pas que le Québec se sépare. T'sais, on dirait qu'il se positionne toujours en victime. Puis moi, j'ai le goût de voter pour quelqu'un qui va leader.
Ouais, c'est peut-être... Moi, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un leadership qui inspire
ouais.
ce positionnement-là? T'sais, il faut dire qu'il passe pas tout son temps à faire ça.
Non, 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 non.
Mais je pense que ça devrait être mineur dans son discours.
Ouais.
Je pense qu'il devrait... prendre les fenêtres de communication pour parler positivement de ses idées. Puis, encore là, c'est un défi, parce que les médias vont accrocher. Si tu fais un point de presse, là, 95% de ton point de presse, c'est que tu mets de l'avant tes propositions, t'es constructif, puis qu'il y a un petit 5% où tu vas dire « ouais, je pense que le fédéral m'espionne », tu comprends-tu qu'est-ce qui va être retenu pour
ben
le
oui,
titre?
Voyons.
C'est bien sûr que ça va être négatif.
C'est,
là.
C'est à sa gang en communication ou à lui-même de ne pas le faire. Mais des fois,
ça.
On dirait qu'il...
Si tu veux pas qu'on mette trop d'attention sur quelque chose, ben dis-le pas.
C'est ça. Des fois, on dirait que ça y tente.
Ben oui.
D'aller
là-dedans.
Mais
d'aller il met du piquant, là.
Oui, oui, exactement. Mais tu sais, ils ont des super bonnes propositions, là, le PQ, ça l'a dit. Là, ce qu'on proposait en itinérance, c'est ça coche.
Ils ont apporté plein de sujets qui ont été après repris par le gouvernement.
Le temps d'écran, la crise des opioïdes. Donc, c'est vraiment amené par le PQ. Alors,
lutte
au
crime organisé aussi. Oui. Hein, ils en ont beaucoup. C'est le PQ qui parlait de ça au départ.
Ah oui, même ici, dans la région de Québec, Pascal Paradis en a énormément parlé. On parle d'un autre sujet qui fait la manchette à l'heure actuelle, la Constitution. Simon Jolin-Barrette qui tient à ce que maximum vendredi prochain... Tout le monde est dansé, la Constitution, on l'écoute.
Et jamais je ferai de compromis sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
Quoi?
Je ferai pas de compromis sur l'égalité entre les femmes et les hommes parce que c'est fondamental dans notre société que ça soit inscrit dans notre Constitution que l'égalité entre les femmes et les hommes prime sur la liberté de religion. C'est comme ça ici au Québec qu'on vit. Alors, moi, je les invite à se ressaisir et à faire en sorte que les oppositions collaborent pleinement. Toutes les formations politiques ont souhaité avoir une constitution. C'est une constitution québécoise qu'on a. Moi, je suis prêt à discuter avec eux, mais il faut très clairement qu'ils laissent la partisanerie de côté.
Moi, là, quand on sort là, le jeu des valeurs là, pour essayer de faire pleurer tout le monde...
Ah, t'es contre l'égalité homme-femme, Jeff, je pense.
Non.
Ben oui, parce que t'es... Tu dénonces que Simon Jolin-Barrette dit, et lui, il ne fera pas de compromis sur l'égalité homme-femme.
T'as raison. Tu sais, quand on va essayer de passer une affaire à sauvette un peu tout croche, là, ben là, quand on est rendu à frapper le mur, qu'est-ce qu'on fait? On ressort une valeur que personne ne pourra être contre.
Exact.
Jamais! Je vais me battre toujours pour l'égalité homme-femme. C'est exactement ça qui fait...
pas mal plus d'affaires que juste ça dans son projet de constitution
ben,
aussi.
C'est ça. Là.
Mais ça, c'est un jeu politique classique. C'est souvent ça avec les motions sans préavis qui sont votées à l'Assemblée nationale là, tous les jours. Je vais mettre quelque chose, là, c'est comme une tarte aux pommes. Là. Tout le monde est pour ça. Puis là, je vais mettre des affaires que le monde est, ça divise davantage. Puis quand les gens vont voter contre, je vais dire, vous voyez, ils sont contre la tarte aux pommes. Truc vieux comme le monde, s'il en est un. Le problème avec ça, c'est que c'est pour un projet de constitution. C'est pas un projet de loi ordinaire,
mais
une
non.
Motion du mercredi, là, cette affaire-là.
Exactement. Là.
C'est comme fondamental. Puis on le sait, là, le timing durant lequel on a déposé ce projet de constitution, honnêtement, ce n'était pas le bon. Si la CAQ avait déposé un projet de constitution en 2023, mettons avant d'annuler le troisième lien, là,
ouais, mettons.
Quand ça allait bien là, encore, là. Je pense qu'il y aurait eu plus de chances de passer un tel projet.
C'est sûr.
Et deuxième condition... Il y a pas mal de monde qui trouve que le processus par lequel ce texte-là a été préparé n'est pas adéquat. Parce que quand on fait un projet de loi, il va y avoir des consultations officielles à l'Assemblée nationale une fois qu'on a déposé le projet de loi. Il va même souvent avoir des consultations avant de présenter le projet de loi. Le ministre va rencontrer plein de groupes, il va s'alimenter de plein de choses avant de préparer son premier texte de loi. C'est ça que Simon Jolin-Barrette a fait. C'est bien correct pour un projet de loi normal, mais pour un projet de constitution... Il aurait fallu faire davantage pour aller rallier le plus de monde possible puis faire quelque chose qui est un peu plus dans la co-création.
Oui, mais c'est ça. Le projet de constitution, il faut enlever la partisanerie de ceci puis travailler tous les partis politiques ensemble. Et là, la minute où François Legault l'a mis dans ses priorités pour essayer de remonter dans les sondages à l'automne, bien là, il y a le côté partisan qui est là.
C'est ça. Puis on peut comme pas sortir de ça, à mon humble avis. Puis quand Christine Fréchette a décidé de redéposer à la suite de la prorogation... Je comprenais pourquoi elle le faisait, parce que c'est pas à elle de porter l'odieux de flusher le projet de loi.
Mm-hmm.
Elle savait très bien que les oppositions n'allaient pas laisser passer ça.
Mais au final, on peut dire que tout le monde est partisan dans ce dossier-là. Les oppositions bloquent le projet de façon partisane pour pas qu'il passe avant la fin de la session parlementaire. Puis du côté de la CAQ, le projet naît d'une volonté partisane de remonter dans les sondages.
Oui, puis non. Parce que je pense que la démarche de Simon Jolin-Barrette a une forme de sincérité. Je pense que c'est un vrai nationaliste qui aurait voulu doter le Québec d'une constitution. Puis moi, je veux pas juger de ses intentions. Je pense qu'elles sont nobles au départ. Puis il y a des gens qui n'aiment pas Simon Jolin-Barrette puis qui vont dire que je me mets le doigt dans l'œil. Je suis prête à accepter ça, mais je vais pas présumer que l'origine du projet est partisane. Mais le timing et comment le cabinet du premier ministre... Parce qu'en bout de ligne, Simon Jolin-Barrette, il pousse depuis longtemps pour sa constitution.
Oui.
c'est le cabinet du premier ministre qui disait hey, « Je suis pas sûr que c'est une priorité pour les Québécois. » Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, quand il fallait remonter dans les sondages, ça prenait quelque chose de nationaliste. Là, ils ont décidé de... Ben, puis on caricature un peu, mais c'est un peu ça qui s'est passé dans la séquence. Et la CAQ est tellement impopulaire. Je veux dire, quand tu es à zéro siège dans les projections, là, avec les sondages, c'est dur de porter un projet qui est supposé de rallier un grand nombre et d'être transpartisan.
Tu as tellement raison. Et tu sais, la CAQ, dans le fond, quand tu dis « on va se souvenir de François Legault dans 15-20 ans », moi, je dis qu'on va s'en souvenir pour l'identité québécoise.
Oui, la gestion de la pandémie aussi. Oui. Puis je sais que c'est des mauvais souvenirs, mais il a été très aimé à ce moment-là. Mais il faut... La CAQ, il faut qu'ils fassent leur deuil. Là. Elle ne passera pas, la Constitution.
Non.
Ils peuvent accuser les oppositions de partisanerie, mais ce faisant... Ils prouvent qu'on fait de la partisanerie. Donc,
c'est
un piège, c'est un catch when it's tout pour la
CAQ. Plein ça.
Puis, honnêtement, mettez donc votre temps de commission parlementaire sur autre chose. Il y a plein de projets de loi encore en cours. Il reste quelques jours d'Assemblée nationale.
D'ailleurs, parlant d'autres choses et d'autres choses très importantes, deux grosses rencontres pour Christine Fréchette aujourd'hui. Il y en a une qui est faite. Elle a rencontré l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra. Et là, elle va rencontrer cet après-midi Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. On commence avec sa rencontre avec Danielle Smith. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Parce que, bon, quand le PQ va en Alberta, on dit qu'ils en vont voir les souverainistes albertains.
Ouais.
Quand le Parti conservateur du Québec s'en va en Alberta, on dit, bon, ben ils s'en vont là dans l'optique de développer les ressources naturelles, voir le pétrole, le gaz au Québec. Mais Christine Fréchette, c'est quoi son intérêt à s'asseoir avec Danielle Smith aujourd'hui?
D'abord, élément de contexte important, c'est Danielle Smith qui a demandé la rencontre.
Oh!
Donc, c'est de l'initiative de l'Alberta que cette rencontre a lieu aujourd'hui. Bon, moi, je pense que c'est toujours sain que des premiers ministres de province se parlent en passant.
Mm-hmm.
C'est pas juste pendant les conseils de la Fédération ou quand le premier ministre du Canada convoque des rencontres qu'on doit se parler. D'ailleurs, parenthèse, commerce interprovincial, bruit de grillons.
Ouais.
On
les barrières.
Ouais.
Les barrières interprovinciales qu'on était censé
faire tomber ça.
Tout enlever. Dès que Donald Trump est arrivé avec ses premiers tarifs, Mark Carney n'était même pas là à ce moment-là, Justin Trudeau, François Legault, Christopher Freeland, ils disaient tout, checkez-nous ben, allez, les barrières interprovinciales, on scrape ça. C'était la première étape du plan.
Ouais.
Là, il y a d'autres étapes qu'on a faites, diversifier l'économie, aller créer des ententes avec d'autres pays, tout ça.
Ouais.
Mais l'étape la plus facile à faire, on ne l'a pas faite.
En fait, je pense que c'était pas facile. C'était facile à dire.
Mais facile. On nous le présentait comme étant, il n'y en aura pas de problème.
C'était un no-brainer.
Il y a zéro chasse gardée dans les provinces.
Oui. Donc, je referme la parenthèse, mais ce serait une bonne idée que les provinces continuent de se parler pour augmenter le commerce interprovincial. Donc, je me suis demandé pourquoi. Là, les sujets qui sont à l'ordre du jour, premièrement, le référendum en Alberta, c'est pas un bon sujet pour Christine Fréchette. On est-tu d'accord?
Non. Pas du tout.
On a dit tantôt, c'est un peu inconfortable pour la CAQ. Donc ça, c'est une pleure de banane à éviter. La seule ligne de com de Christine Fréchette acceptable, c'est aux Albertains de décider.
Ouais.
Est-ce que la clarté référendaire... Ça, le Québec l'a déjà dit, c'est unanime, c'est 50% plus 1, la clarté référendaire. Fait que ça, c'est réglé.
Ouais, puis là, même Charles Milliard l'a dit.
Ouais, fait que là...
Fait que là...
Mais... On s'arrête là après, là.
Oui, 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 on parle pas de référendum.
On s'en mêle pas, là.
Parce que sinon, ça parle de référendum. Marc, il va nous redire ça.
Madame Fréchette n'est pas capable de dire qu'elle voterait non à un référendum. Madame Fréchette est séparatiste. Madame Fréchette, là, si elle est élue, là, je veux dire, là, si il y avait un référendum, ben, elle voterait oui, Madame Fréchette.
Et voilà, Marc va nous le dire, ça parle de référendum.
Il faut quand même y donner, qui est très, très divertissant. Donc, OK, première pleure de banane à éviter.
Ouais.
Madame Fréchette, évidemment,
davantage
de raisons de parler d'économie entre les deux provinces, mais c'est sûr que Madame Smith va vouloir faire la promotion des dossiers énergétiques.
Mm-hmm.
Puis je ne sais pas si les Québécois sont conscients de ça, mais en Alberta, il y a vraiment une idée très répandue, qui est que le Québec, on est bien bon pour se dire très environnemental parce qu'on a des énergies propres. On dit non à des pipelines. Hein? On ne veut pas de pipelines chez nous.
Ça passera pas par le Québec.
Ça passera pas. Donc, les Albertains sont un peu frustrés de ça parce qu'ils considèrent que leur pétrole, paye nos programmes sociaux.
Ben oui, parce qu'il y a la péréquation.
La péréquation. Donc, ça crée beaucoup de frustration chez les Albertains. Et en ce moment, bien évidemment, Mme Smith, son objectif, là, c'est de créer des nouveaux marchés, avoir des nouveaux corridors énergétiques. Oui, un projet, une entente qui a été signée avec le fédéral pour un corridor énergétique qui partirait vers l'ouest. Mm-hmm. On a même vu qu'on allait vendre du gaz naturel, mais ça partait par l'ouest. Donc, on va vendre du gaz naturel à l'Europe. Mais il va partir par l'ouest du pays, pense-y.
Ah, ça n'a pas de sens, là.
C'est capoté, là.
C'est capoté. Alors que si on faisait le projet GNL Québec, ça partirait...
Oui, mais on a dit non. On a dit non au projet GNL Québec. Donc, probablement que ça va beaucoup animer leur
Qu'est-ce
discussion.
Qu'on peut retrouver comme gagnant-gagnant après cette rencontre-là? T'sais, j'ai l'impression qu'on va être dans un discours de sauce. Moi qui.
Ben, premièrement, Mme Fréchette, elle est en élection dans quelques mois. Donc, d'après moi, elle va faire preuve d'une grande prudence. Mm-hmm. Donc, montrer de l'ouverture, de l'écoute, mais de là à sortir de là en disant... Ah, je pense qu'on devrait là, vraiment faire des pipelines au Québec. Tu comprends? On n'aura pas des déclarations comme celle-là. Ça risque d'être plus des déclarations du style « on a convenu d'augmenter nos échanges, de pousser nos intérêts
fait
communs ».
Fait qu'une déclaration de Dominique Leblanc quand il est sorti de Washington hier.
Genre.
Ça va faire ça.
Peut-être un petit peu plus concrète, mais qui
ouais.
sait.
Mais t'es, pas vrai. On est amis, finalement.
Oui, ben c'est ça.
Ça va être pas mal ça. Parlant d'amis, Mme Fréchette a rencontré, Christine Fréchette, la première ministre, Pete Hoekstra, l'ambassadeur des États-Unis au Canada. On a parlé de libre-échange. Bon, Pete Hoekstra dit que, justement, il soutient que ça prend un nouvel accord versus l'ACEUM. Mais, t'sais, demain fâché contre nous, là, les Américains.
Ben, premièrement, le peuple américain n'a pas connaissance de ça, mais oui, les acteurs clés, les acteurs politiques américains qui sont au fait de ce qui se passe avec le Canada, on en jasait hier, sont fâchés contre nous, ils sont dans l'incompréhension, ils ne comprennent pas pourquoi on tient notre bout. C'est fou, hein?
C'est fou.
Ce qu'ils comprendraient, c'est qu'on se garoche à terre, là, puis qu'on quémande une entente. C'est ça, leur attente comme telle. Donc, je ne sais pas comment va se passer la discussion. C'est passé la discussion entre Mme Fréchette et M. Hoekstra, mais c'est certain qu'il faut être conscient de la perception. Présentement, c'est pas les Canadiens ils se tiennent debout puis ils sont forts puis elbows up là.
C'est que
ils sont bien débiles, c'est ça.
Les Canadiens voyons donc on leur donne tout.
C'est incroyable.
Tu signes pas, mais non, mais c'est vrai, c'est ça qu'on entend partout là, tu sais des hauts ténors américains là, tu sais Donald Trump. Mais ouais, on leur donne une économie, pourquoi ils sont contre nous autres? On les protège. Pourquoi ils sont contre nous autres?
Hey, ben, c'est ça. Puis c'est la nouvelle trame narrative. Puis d'ailleurs, Donald Trump, tantôt, Mathias, tu parlais des nouveaux droits de douane de 10% dont plusieurs pays vont bénéficier à leur grand bonheur sous des prétextes de... Ce sont des pays qui ne respectent pas... se foutent un peu du travail forcé.
Ouais. Moi, je suis allé aux États-Unis régulièrement, puis honnêtement, tout ce que j'ai vu quand j'étais aux États-Unis, c'était du commerce local.
Oui.
C'était fabriqué
équitable.
À même la ville, équitable,
bio,
tout était respecté.
Les chaussures Nike, notamment, je pense que c'est tout des travailleurs syndiqués,
ouais,
ça.
Ouais, ben,
c'est tout fait à Détroit.
Est-ce qu'il y a des boutiques Nike aux États-Unis? J'ai-tu déjà vu ça? Attends, je suis allé à Times Square. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment, vraiment une gigantesque. Mais attends, là, c'est parce que si le produit est aux États-Unis, c'est parce qu'ils se sont assurés que c'était sur la chaîne de production Nike où c'était des adultes syndiqués qui travaillaient là, en Chine.
Exact.
Puis ils se sont assurés que la Chine avait un régime démocratique.
Donc, vous comprendrez, Jean, c'est à la maison que nous niaisons, OK? Ouais. Et nous sommes très sarcastiques parce que c'est juste un nouveau prétexte que M. Trump a trouvé, là. Mais, puis ce matin, je lisais les articles, puis là, j'essayais vraiment de comprendre. Parce que la dernière fois qu'on nous a sorti des prétextes un peu sortis de nulle part, c'était le fentanyl, vous
rappelez? Oui.
Mais sauf que le fentanyl, pourquoi M. Trump mettait ça sur le dos du fentanyl? C'est qu'il voulait bénéficier d'un article spécial d'urgence, des tarifs d'urgence. Sécurité nationale, qui ont été finalement battus par la Cour suprême, qui est même si elle est majoritairement républicaine. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on est dans le même genre de choses? Ben non, parce que ça ne justifie pas des tarifs d'urgence comme tels. Après ça, je me suis rappelé que M. Trump n'avait pas très bien réagi quand on a fait une rencontre, une entente avec la Chine.
En effet.
Travail forcé, Ouïghours, Les Ouïghours en Chine, c'est quelque chose qui est assez connu, que les Chinois, évidemment, nient beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est un geste pour faire suer la Chine. Et en plus, un peu se venger des pays qui font affaire avec la Chine.
Donc, est-ce que ça veut dire que sa rencontre, sa grande rencontre avec Xi Jinping, attends, je le prononce pas comme
Jinping.
Il faut, le président chinois, c'est pas aussi bien passé parce qu'il était sorti de là en disant « Hey, c'est des ententes économiques incroyables! »
Ouais, ben de toute façon, est-ce qu'on peut se fier? C'est un nouveau prétexte. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est la réaction de M. Carney parce que... Bon, évidemment, il ne peut pas frontalement répondre au président américain sur les questions. Puis en plus, est-ce que vous... T'sais, on est tous pour ça, là, d'empêcher le travail forcé. Là.
J'ai sa réaction de ce matin, justement, à son entrée à la Chambre des communes.
Ce n'était pas une surprise, cette action américaine hier soir. C'est important de reconnaître que les exports, la plus grande partie des exportations... Canadiens seront exclus de cette action. C'est plus de 85% de nos exportations. C'est le même cas qu'avant, en effet. Mais l'objectif des Américaines, nous partageons cet objectif, l'élimination du travail forcé, du travail des enfants. Dans notre chaîne d'approvisionnement.
Oui, puis il y a même ajouté qu'au Canada, on avait des cadres réglementaires là-dessus et tout ça. Donc,
on est tous pour ça.
Exactement. Alors, tu sais, c'est une autre histoire à la Donald Trump. Comme on disait hier, je pense, le mot, c'est patience.
Ben c'est ça. Puis là, M. Carney, il dit, on pourrait passer un projet de loi, tout ça. Ouais. Moi, honnêtement, là, on n'a pas... Notre agenda législatif... Mais on peut tester que c'est une priorité, en passant.
Oui.
Mais notre agenda législatif ne devrait pas être conditionné aux négociations avec M. Trump. Je veux dire, de toute façon, il ne vous donnera rien en échange.
C'est ça.
Il va remettre d'autres des tarifs avec une autre raison. Hey. Donc, bref, attention.
Patience. Dans un conflit militaire, l'Iran est en train de gagner parce qu'ils sont patients.
Hey, c'est-tu assez terrible? Ça a-tu rien donné, cette affaire?
Non, c'est ça. Donc, tu sais, patience. Écoute,
patience,
on s'en va aux élections de mi-mandat. Il reste 2 ans et demi. Regarde.
Parlant patience. De patience, là, M. Trump est revenu à la charge avec son histoire de 51e État.
Oui.
Cette semaine, ça faisait un petit moment qu'il le ramène une fois de temps en temps, mais il s'est moqué sur le réseau social Truth lundi du Canada, publiant un article de Bloomberg qui faisait état de la récession technique au Canada. Donc, il a tweeté « 51st State » avec le lien vers l'article. Donc, tout se passe comme le plan de M. Trump, détruire notre économie pour ensuite dire qu'on est trop faible pour être un pays indépendant.
Exactement. Puis, tu sais, je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui, on va être dans une période de perturbation économique. C'est clair, ça va être difficile pour énormément de gens au Canada, au Québec. Il y en a qui vont perdre leur emploi. Mais malheureusement, faut passer par là si on va avoir une entente qui a du sens à un certain moment donné. Signer une entente à la panique de cette récession technique-là, ben ce serait justement se mettre dans le trouble pour 10, 15, voire 20 ans.
La panique, c'est jamais une bonne réaction.
En plein ça. Donc, patience, ça va finir un jour, Donald Trump, et ça va finir les idées MAGA. C'est en perte de vitesse présentement aux États-Unis. Puis ça va continuer à être en perte de vitesse parce que quoi que Donald Trump dise, je suis extraordinaire, je suis le meilleur président et on devrait nommer des édifices à mon nom, qui en passant, la Cour lui dit non, on nommera pas d'édifice à ton nom. Pendant ce temps-là, les Américains se détachent tranquillement mais sûrement d'un politicien comme Donald Trump.
Et le mouvement MAGA est très divisé.
Exactement. Mouvement MAGA très divisé. T'en as parlé hier, affaire Epstein, guerre tarifaire, guerre en Iran.
Prix de l'essence.
Prix de l'essence. Donc, faut vraiment être patient parce que c'est les Américains eux-mêmes qui vont se tourner contre leur propre chef, contre leurs propres organisations. Ça s'en vient. Au mois de novembre, ça s'en vient avec les élections de mi-mandat.
Espérons-le, en tout cas.
Oui, j'ai confiance, moi. Bien confiance dans ma boule de cristal. Antonine Iacanerini, toujours un plaisir. T'es absente demain, malheureusement?
Oui, je m'en vais dans Charlevoix.
Ah oui?
Pour un petit contrat d'animation.
C'est donc ben le fun.
Vous m'excuserez.
T'as-tu le droit d'expliquer qu'est-ce que tu t'en vas animer?
C'est un panel sur les autres professionnels. Je vous ai dit, mon Dieu, les autres professionnels, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Et ça touche plein d'enjeux super intéressants. Moi, ça, je trouve ça passionnant. Donc, on va parler un peu de ces enjeux-là dans le cadre d'un panel avec deux anciens élus. Ça va être super le fun. Je sais cool. pas si j'ai le droit de dire leur nom, fait que je le dirai pas. Mais...
Parfait. Excellent.
Ça va être le fun.
Merci, Anto. C'est super apprécié. On se reparle le lundi. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité. En attente, évidemment, de notre entrevue avec Bruno Marchand. Entrevue qui aura lieu de 13h à 13h10. Entrevue du peuple. On va poser les questions que vous avez envoyées par texto au 418-971-1021. Merci d'avoir participé en si grand nombre.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Émission en jase, ton émission d'actualité du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. On vous le dit toujours, on met l'actualité locale en priorité. Et c'est pour ça qu'on va avoir dans une dizaine de minutes le maire Bruno Marchand en entrevue concernant cette annonce. Il y a 10 milliards de dollars au total. Mais avec le maire, évidemment, on va parler du financement du projet de tramway qui a été assuré du côté du fédéral hier. On le rappelle, assuré pour le budget prévu de 7,6 milliards de dollars jusqu'à présent. Vous voulez interagir avec nous, c'est le 418-971-1021. À la météo, c'est l'été aujourd'hui. Il fait présentement 28 degrés, c'est ensoleillé. Demain, même principe, 28 degrés généralement ensoleillé. On y va avec un 21 degrés nuageux pour vendredi. Il y aura peut-être de la pluie samedi à 22 degrés. Donc, deux superbes journées estivales. Ça fait du bien. Allez profiter des terrasses extérieures de nos meilleurs commerces ici à Québec. Donc, profitez-en. C'est l'été. C'est le fun. Il fait beau. Il fait chaud. On est très heureux. En attendant le maire Marchand, Mathias, on va se faire un bon bulletin de news. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Je profite du fait qu'on a teasé le maire Marchand qui va se joindre à nous d'un instant à l'autre pour vous parler d'une conférence de presse qui aura lieu cet après-midi pour Québec, 15h30, sur l'état des avancements des travaux Tramcité et des interventions dans Saint-Roch. Je serai d'ailleurs de passage dans le retour pour en parler à 17h.
Excellent. Tu seras de passage demain matin à 7h30.
Également. L'homme d'affaires Vincent Blanchette, notamment connu pour avoir cofondé Tyson Chocolato et Shaker, est cité à un procès le 8 septembre prochain. Il fera notamment face à une accusation d'extorsion et une accusation de traite de personnes. La défense contestait ces deux chefs, mais le juge a déterminé que la preuve à son encontre permettait d'autoriser un procès devant juge et jury. C'est entre 2018 et 2025 que Blanchette aurait, sous la menace, incité une femme à lui fournir des services sexuels. Il est aussi accusé d'avoir rendu accessible une image intime de cette même plaignante sans son consentement. Les États-Unis reviennent en force avec des menaces de tarifs douaniers. Les Américains qui voudraient viser 45 pays, dont le Canada, la Chine, plusieurs pays de l'Union européenne et le Mexique notamment. Ce serait des tarifs de 10 à 12,5%. On parlerait de 10% pour le Canada. La raison, les économies en question ne feraient pas suffisamment d'efforts pour combattre l'importation de biens issus du travail forcé. Du moins, c'est ce qu'on laisse entendre du côté de Donald Trump. On voudrait donc utiliser une loi sur le commerce datant de 1974 pour mettre le tout en place. Je vous rappelle que les droits de douane du président américain avaient été invalidés initialement le 20 février dernier par la Cour suprême américaine. On a ensuite rajouté des droits de douane de 10%, mais de façon temporaire à l'aide d'une loi spéciale. Mais ces droits de douane-là prendront fin le 24 juillet. On doit donc trouver de nouveaux moyens de mettre des droits de douane, cette fois-ci un peu plus permanents, en place. Différentes réactions dans le monde politique aujourd'hui. Mark Carney qui se dit pas surpris. Du côté de Christine Fréchette, on affirme vouloir un cadre stable pour l'économie avec les tarifs les plus bas possible. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, en parlant de lui, a demandé au CRTC de revoir à la baisse les redevances supplémentaires qu'il voulait imposer aux géants américains comme Netflix et Prime Video. Cette demande survient alors que le Canada a rencontré les États-Unis hier concernant les tarifs. Le ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, Mark Miller, annonce du même coup une enveloppe de 600 millions de dollars pour pallier le manque à gagner. Les États-Unis, qui avaient publiquement décrié la hausse de 15% qu'on voulait mettre en place pour les diffuseurs américains, identifiant la politique comme une barrière majeure aux négociations.
Oui, exactement. Mark Carney qui avait retiré justement la surtaxe. Là, on revient du côté du CRTC en voulant mettre des quotas, justement, comme on vit ici en radio, là, pour du contenu canadien. Donc ça va être une bataille de tous les instants pour les Américains. Puis honnêtement, je pense que c'est une concession qu'on est capable de faire ici au Canada.
L'ambassadeur des États-Unis au Canada, Peter Hoekstra, qui rencontre Christine Fréchette, justement pour parler notamment des négociations concernant les tarifs, notamment. Aujourd'hui, en se rendant justement à la rencontre avec la première ministre du Québec, il a affirmé que le président Donald Trump et le premier ministre canadien Mark Carney allaient avoir une excellente discussion concernant les négociations de l'ACEUM. Juste vous préciser que cet même ambassadeur-là s'est fait remarquer en republiant un message du compte Truth Social hier, parlant justement du 51e État des États-Unis en faisant référence aux Canadiens. Vous soulignez que Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, est en ville également pour rencontrer notre première ministre, Christine Fréchette.
On en a parlé dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Ça sera disponible sur le blvd.fm.
Simon-Jeanin Barrette a rappelé l'importance d'adopter la Constitution du Québec. On est dans le dernier droit de la session parlementaire et le temps commence à presser pour la CAQ. Le ministre de la Justice qui a d'ailleurs accusé les partis d'opposition de partisanerie et de ralentir les travaux parlementaires alors que absolument rien n'annonce avancé dans le dossier hier à l'Assemblée nationale. Musique Plus effectuera son grand retour.
Ah oui, j'ai vu ça entendu sur TikTok. Hein?
Ouais, ouais. Vous avez bien entendu, mais comme t'as dit, Jeff, ça va pas être à la télévision.
Non.
Ça va être sur TikTok. C'est à partir du 11 juin qu'une nouvelle génération de créateurs mettra de l'avant la musique, la culture et le divertissement, notamment à celles provenant du Québec. Les nouveaux visages qui seront présentés lors de l'événement de lancement, justement, le 11 juin. On parle de plusieurs créateurs, pour certains qui sont déjà très connus du public sur les réseaux sociaux. Ils seront tous âgés entre 22 et 34 ans. Un nom qui revient dans les rumeurs serait l'humoriste Maud Landry, mais on n'a pas eu de confirmation pour le moment. Et je termine en vous rappelant l'entente Québec-Canada qu'on a eu hier, 10 milliards de dollars au total, 6 milliards pour le transport collectif, dont 2,75 milliards pour le tramway. Le fédéral vient donc renforcer sa part de financement dans le projet de tramway de Québec qui s'élève à 7,6 milliards. On viendrait donc financer 36 % sur les 40 % qui étaient demandés par le provincial. 1 milliard de dollars côté santé sur 3 ans. Plus localement, ça permettrait notamment de financer l'Hôtel-Dieu de Lévis. 2,7 milliards pour les infrastructures, logements, enseignement et eau potable et 459 millions pour 11 projets d'électrification différents.
On reçoit justement le maire Marchand dans quelques minutes après cette courte pause pour parler de cette entente qu'on peut qualifier d'historique à 10 milliards de dollars entre le Canada et le Québec, le financement du tramway qui serait assuré.
Jusqu'à 14 heures. On en jase à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
L'émission On en jase, il est précisément 13h01. On va de ce pas rejoindre sûrement l'homme le plus heureux à Québec, le maire le plus heureux dans la province, Mathias Turcotte. J'ai nommé Bruno Marchand, maire de Québec. Monsieur Marchand, je ne poserai pas comment ça va parce que j'imagine que ça va très bien.
tu te trompes pas.
Me trompe pas, hein? Non, hey, non, j'ai vu ça dans ma boule de cristal, c'est fou.
Ouais, t'es devant, t'es devant.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes, M. Marchand, dans cette journée très, très chargée pour vous. On a fait un concept spécial pour l'émission On en jase. On va vous poser les questions des auditeurs qu'ils nous ont posées en début de show pour vous. Ça vous va?
Avec plaisir, oui.
Excellent. Puis, gars, on se donne, si vous permettez, on va se donner un petit défi, des réponses de 25-30 secondes pour qu'on puisse en poser le plus possible.
C'est bon.
Excellent. Kim qui nous a posé comme question. Est-ce que vous avez menti, M. Marchand, auparavant, quand vous avez dit que le financement était déjà accordé alors qu'il n'a été accordé qu'hier?
Non. Le financement était complet parce que la Caisse de dépôt et placement investissait des sommes, mais on a toujours dit que le fédéral n'avait pas sa part complète, donc le 40 % attendu, et qu'on travaillait là-dessus, mais ça n'empêchait pas le projet d'aller de l'avant. Maintenant, on a la part du fédéral qu'il y a eu partout au Canada dans des projets similaires.
Parfait.
Est-ce qu'à un moment, il y a un petit stress à propos de ce financement-là que vous commenciez à être stressé, qu'il n'y allait peut-être pas arriver?
Bon, non, mais mettons que j'étais impatient, dans le sens que je me disais qu'ils ne pouvaient pas passer à côté de ce qu'ils avaient fait ailleurs. Mais mettons que j'étais tanné qu'on en parle, c'est que j'avais hâte que ça aboutisse.
Cet après-midi, vous avez une conférence sur Tramcité, c'est une petite question de moi. Est-ce qu'on va revoir le fait qu'on va faire des travaux à l'Université Laval directement en pleine rentrée scolaire. Mettons qu'on aurait pu déplacer ça en octobre?
Non, parce que ce qui est prévu, c'est fait en fonction d'un calendrier qui tient compte, oui, de l'Université Laval, mais d'un paquet d'autres facteurs. Alors, on discute avec nos partenaires, mais en même temps, on veut respecter un échéancier. Le problème qu'on a au Québec, c'est l'hiver. Hein. C'est que c'est pas tous les travaux qui peuvent se faire l'hiver. Fait qu'il y a des choses qu'il faut faire avant, puis des fois, on a besoin de délai pour le faire. Fait qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut faire dans une séquence, c'est ce qu'on fait.
Oui, c'est juste que je me disais que pour augmenter l'acceptabilité du tramway, il me semble que ça aurait été bon de ne pas faire des travaux au mois de septembre à l'Université Laval.
Oui, mais on les fera en octobre, que le monde va être aussi... J'ai envie de dire, autant vivre les effets.
OK. Il y a beaucoup de trafic en septembre. Jonathan qui dit, est-ce que, M. Marchand, vous ne trouvez pas ça agaçant de dire qu'il y a l'argent du fédéral sur la table et qu'il faut en profiter alors que tous les paliers de gouvernement sont endettés et qu'on est en récession technique?
Bien, c'est une bonne question, ça aussi. Si on voit l'argent du fédéral comme étant un grand pot où on peut mettre l'argent n'importe où, la question est valable. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est de l'argent dédié au fédéral pour les transports collectifs. Alors, où on le prend, ou d'autres le prennent. Moi, comme citoyen de Québec, là, j'ai envie qu'on ait notre juste part. Fait que oui, je vais le prendre.
D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là que vous êtes.
C'est pas un budget familial où tu dis, j'ai 1000 $, est-ce que je fais un voyage, est-ce que je répare, une pièce d'auto. C'est des argents dédiés en infrastructure, infrastructure de transport. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si le Québec ne le prend pas, cet argent-là, si la Ville de Québec ne prend pas sa partie, bien, ça va aller à Calgary, ça va aller à Edmonton, ça va aller à Vancouver. Or, on paye des impôts au Canada, on mérite notre somme.
Oui, je comprends votre jugement là, dans le sens que le gouvernement canadien met des programmes en place. Donc, à ce moment-là, il faut faire les efforts pour en bénéficier, nous aussi.
Ben oui.
Éric qui pose des questions sur l'itinérance. Est-ce qu'on a une solution concrète applicable pour l'itinérance? Puis moi, je rajoute, tu sais, je vois là qu'on démantèle les campements. Je suis pour ça. Il y a un manque de sécurité à l'intérieur de ça. Faut amener les gens pour les ressources. Mais quand je démantèle un campement, est-ce que j'ai quelqu'un qui amène un itinérant vers les ressources, justement? Comment ça fonctionne?
Bien, alors, c'est sûr que le but, c'est pas de faire ça manu militari. On rentre pas là-dedans avec un tank et on dit on s'en fout du reste. On travaille avec des gens qui peuvent soutenir et qui peuvent... Et la plupart de ces gens-là connaissent les ressources. On a de la place dans nos ressources pour soutenir, accompagner, prendre soin des gens humainement parlant. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va continuer de faire. On démantèle les campements pour, comme tu l'as dit, il y a des raisons de sécurité, il y a des raisons de cohabitation, il y a des raisons de criminalité, pas parce que c'est des itinérants, mais il y a des gens qui viennent faire les sales besognes par certaines personnes. Alors, ça n'a pas de sens, c'est dangereux, c'est même dangereux pour les gens qui sont dans un campement. Et je ne tolère pas les campements parce que c'est pas vrai que je vais accepter cette fatalité-là. Ben maintenant, il y a des campements. Non, on a des places dans des refuges. Est-ce qu'on connaît les solutions pour plus avoir ni de campement ni de refuge? La réponse est oui. Est-ce qu'on en fait? Oui. Est-ce qu'on en fait assez? Pas du tout.
Mais en même temps, M. Marchand, on le voit un peu, on démantèle un campement, puis ce même campement-là va aller se déplacer ailleurs, fait qu'on va démanteler le campement ailleurs pour qu'il retourne se déplacer à un autre endroit. Ça semble être un peu une roue sans but, puis ces personnes-là, ben, on trouve pas nécessairement de solution pour eux.
Bien, tu as tout à fait raison. C'est pas parce qu'on démantèle un campement que tout d'un coup, l'itinérance est partie. Là. L'itinérance n'est pas partie. On démantèle un campement parce qu'on refuse que 5, 10, 15, 20 personnes vivent à une place, dans une place publique ou dans une autre place, et décident de s'établir là. C'est pas possible. La Ville ne peut pas tolérer ça. Après ça, c'est pas parce qu'on a démantelé un campement que l'itinérance est disparue. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que je dis depuis plus de 5 ans, il faut viser l'itinérance zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la volonté politique, ça veut dire des statistiques, puis ça veut dire plus de logements pour mettre les gens de l'itinérance visible dans des logements. Ça marche quand on le fait.
Ouais,
à Québec, il y a un organisme qui fait ça, ça marche. On sort, plus de 80% des gens qu'on sort de la rue deviennent en stabilité résidentielle, ne retournent pas à la rue.
Oui, avec le projet Porte-Clés, je salue d'ailleurs les organismes qui font ceci. Est-ce que le modèle finlandais, justement, où on est en appartement, il y a des services de proximité, justement, psychologues pour la santé mentale, des services aussi pour retirer les jeunes de la toxicomanie, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de concret à Québec un jour?
Bien, j'espère. Puis moi, je pousse les gouvernements à aller là-dedans. J'espère. La Finlande l'a réussi, mais pas complètement, là, parce que dernièrement, ils ont arrêté d'investir là-dedans, puis l'itinérance a commencé à réaugmenter. Mais ils ont quand même des statistiques impressionnantes. Ils sont passés de plus de 18 000 à presque 2 500. C'est une baisse énorme. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de s'attaquer à l'itinérance visible. Et c'est par des logements, comme vous le dites.
Oui, exactement. Je vois que vous n'avez pas utilisé le mot « moufette » avec itinérant. J'aimerais vous féliciter pour...
Ben, je vous remercie, j'ai fait attention. C'est pas parce qu'on a de l'ambition, c'est pas parce qu'on veut de la sécurité, c'est pas parce qu'on vise la cohabitation que c'est pas, au final, et même en premier lieu, des humains. Humains qui en arrachent, qui mettent un genou au sol. Notre approche, ça doit être humaine. Quand je démonte un campement, c'est pas pour écœurer du monde, mm-hmm. c'est parce qu'il y a des enjeux de sécurité, c'est parce qu'il y a des enjeux importants de cohabitation, des enjeux liés à la vie à l'intérieur de ce campement-là qui n'est pas viable. Maintenant, on va prendre soin du monde pareil. On peut faire les deux. On peut prendre soin du monde, on peut sortir de la rue, mais on peut se dire l'itinérance, c'est pas acceptable.
Question de Simon, et on va se transporter en hiver, même s'il fait 28 degrés
Déjà,
Celsius.
L'été vient d'arriver, les gars.
Ah ouais, mais là, Simon, lui, veut parler de déneigement, puis il a raison. Est-ce que vous allez prévoir des modifications? Je sais que là, il y avait eu la modification, on sort à 7 cm au sol au lieu de 5. Il y a eu énormément de plaintes cette année pour le déneigement. Comment la Ville prévoit faire pour l'année prochaine?
Bien, dans la politique de déneigement, il y a plein de choses qui ont marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui on l'a vu, entre autres, dans Saint-Roch, on avait un entrepreneur, dont c'était la première année, quartier Saint-Sauveur, entre autres, qui était pas...
Oh, est-ce qu'on a perdu le maire Marchand, peut-être?
Vous m'entendez?
Oui, là, on vous entend. Oui, allez-y.
Excusez-moi. Donc, je disais, il y a des corrections qui ont été apportées, notamment dans les relations avec des entrepreneurs, certains qui faisaient pour la première fois. On va continuer de bonifier ça, mais la politique ne changera pas dans la prochaine saison.
Et dernière question, question de Steve. Comment va la relation avec Stephen Blaney? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Québec et Lévis retravaillent ensemble prochainement?
Ben oui, elle va très bien. Moi, elle était même bonne avec Gilles Laouillet. On s'entendait pas mm-hmm. sur tout. Ça... Mais Stephen et moi, on s'entend super bien. C'est un gars très convivial, chaleureux. C'est un gars le fun à travailler. Il y a des enjeux qui sont pas les nôtres et inversement. Mais moi, je l'avais dit à ma première élection, il faut développer nos villes ensemble. On peut pas faire semblant qu'on vit pas l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait. On a eu des résultats, entre autres, sur le transport collectif, sur d'autres éléments, l'économie. Puis on travaille ensemble. Steven et moi, là, la communication est totale.
Monsieur Marchand, je termine en vous disant que moi, je rêve d'avoir un plan clair à la Ville de Québec sur nos infrastructures qui sont en retard. Comment on va faire dans le budget pour revenir, justement, équilibrer ceci, ouais, reprendre ouais. le retard sur les infrastructures. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez plancher, comme on le fait pour la dette, là, le fameux graphique qu'on voit avec la dette?
Oui, ouais, c'est déjà. Ben, il existe déjà en passant. Hein? Ouais, tout c'est... ce qui manque, c'est mm-hmm. la contribution des gouvernements supérieurs. Puis là, okay. Avec l'entente d'hier, ça va nous aider un peu. Mais on sait à Québec que c'est le déficit d'infrastructures va nous amener à peu près à 5 milliards. Mm-hmm. On sait avec notre bureau de gestion des actifs quel est l'état de nos infrastructures. 95-96% d'entre elles, on connaît leur état. 80% sont en bon état. Donc, 20% méritent de l'amour. Puis pour s'assurer que celles qui n'en méritent pas ne passent pas du côté obscur dans les prochaines années, bien, il faut faire ce travail-là. Ouais. À Québec, là, on investit plus en infrastructure qu'on n'a jamais investi en argent direct. Puis paradoxalement, on réussit à baisser la dette en même temps. Ça, c'est un exploit. Mais on n'en fait pas assez, et tu as raison de le dire, parce que le déficit augmente, le déficit d'infrastructure augmente. Donc, on a besoin des paliers, le Québec et le Canada. On va continuer de faire notre part. On a besoin de leur argent, parce que ça a toujours été ça. On fait ça à trois pour faire en sorte qu'on fasse un grand chantier et qu'on arrête d'accentuer le trou.
Y a-t-il certains rubans qu'on pourrait s'empêcher de couper à Québec, justement, pour investir dans nos infrastructures existantes?
Bien, la réponse est oui et non, dans le sens qu'on est passé de 60 % de nouvelles infrastructures dans l'argent qu'on met à 40 %. Donc, on a inversé. On fait plus de réparations et de maintien qu'on en faisait. En même temps, une ville qui grossit comme Québec, il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Il y a des gens qui s'en vont dans des quartiers, là, il y a plus de monde soudainement, ils veulent une piscine, ils veulent un parc, ils veulent des PAE, des programmes pour les vacances été, des PVE, pardon, des programmes vacances été. Fait que c'est ça, dans une ville qui grossit, il y aura toujours de nouvelles infrastructures. Mais on va prioriser, on va mettre plus d'argent sur l'entretien de celles qui existent.
Bruno Marchand, merci beaucoup de nous avoir accordé ces 10 minutes ce midi. On vous souhaite une belle journée. Deux annonces, notamment une conférence sur Tramcité. Puis mon ami Mathias va être là pour vous questionner. Donc, préparez-vous.
Puis il y en a peut-être une belle qui s'en vient vendredi.
Ça va être sur quoi?
On reste à l'affût. Je vous en reparle vendredi.
On n'a pas le droit d'avoir un scoop. On est entre moi et vous, là.
Oui, je le sais. Puis on s'apprécie beaucoup. Mais
ouais,
par respect pour tous les autres, on en reparle vendredi.
OK, ça va être dans quel domaine?
Je pense que ça va être une bonne semaine.
Oui, ça va être dans quel domaine?
Ça va être dans le domaine, ça va être dans... Non, ça le dit pas.
Non!
C'est comme disent les Français, stay tuned.
Stay tuned. OK, parfait. Hey, vous nous avez dit, on est fucking fiers, puis là, vous nous dites stay tuned.
Oui, c'était comme, comme Molière, là, comme les Français disent, c'est pas moi.
Merci, M. Marchand.
Salut.
Au revoir, bon midi, bon après-midi. Un maire complètement en feu. Une annonce vendredi, Mathias.
J'ai hâte de voir. Ben oui, c'est sûr. En plus, c'est juste avant que je parte en congé.
Hein? Fait que le maire, dans le fond, moi, je pense que le maire l'a planifié pour que tu sois là. Il s'est dit, Mathias part en vacances. Jeff va être avec Nathan Meilleur la semaine prochaine. Ah, je vais m'ennuyer. Donc, je vais appeler Mathias le vendredi. Hey, 418-971-101, vous avez réagi justement pendant l'entrevue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrevue avec Bruno Marchand? Moi, Mathias, honnêtement, je vois un maire hyper heureux. Là. Ça transparaît dans son ton de voix. Il est même super ouvert sur les questions des auditeurs. Je vois un maire qui est en maîtrise de ses dossiers à l'heure actuelle. Puis je pense qu'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à l'heure actuelle à l'Hôtel de Ville. Fait qu'il avance. Il avance selon son planning, son calendrier. Puis il est bien en contrôle de ce qu'il y a.
C'est ça. Il contrôle la locomotive. Puis c'est lui qui roule. Puis... Je veux dire, je pense aussi, on dit un maire content, mais c'est surtout que Bruno Marchand, selon moi, est très soulagé.
À un moment donné, t'as raison.
Ça doit peser lourd toujours se faire poser la même question en lien avec le financement du fédéral. Puis la question était très légitime, mais les journalistes, on la posait souvent, ça revenait souvent, l'opposition revenait avec ça. Nous, les journalistes, on revenait avec ça. Là, le maire Marchand juste doit pouvoir dire... cette partie-là du dossier du tramway, du moins, on enterre ça derrière. Je m'en fais plus parler, je me fais plus harceler avec ça.
En plein
puis on a entendu là, qu'il s'en venait un peu tanné, un peu pressé d'avoir la confirmation de ce financement-là. Donc, je pense que c'est beaucoup de soulagement que Bruno Marchand a eu hier.
Marianne qui nous disait, je l'apprécie de plus en plus, le maire, mais c'est hypocrite, sa gentillesse, ça restera à voir. Moi, ce que j'aime... qu'on ait réglé le problème de financement du tramway. Là, puis là, il y a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, mais là, c'est juste pour le 7.7, peut-être le 7.7, vous avez entièrement raison. »
On verra ça en 2027.
Peut-être qu'il va falloir courir après de l'argent. Vous avez raison. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'on va avoir un an où on va pouvoir découvrir Bruno Marchand, le maire autre que le tramway. Et bah, tu comprends? Là, c'est quoi qui va nous développer? C'est quoi qui va arriver comme projet? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de projet pantoute? Ça va être, hey, savez-vous quoi? Comme il nous a dit, j'en mets 60 % dans la réparation des infrastructures. Ben là, ça va être 70 parce que c'est ça ma priorité. Puis honnêtement, s'il fait ça, je vais être le premier heureux. Mais tu sais, j'ai hâte de découvrir le maire Marchand en dehors du tramway, parce que ça fait 5 ans qu'il est maire, ça fait 5 ans qu'on parle de tramway.
Puis je croise les doigts aussi pour découvrir une opposition en dehors du tramway également.
Ah oui, t'as tellement raison.
Pour couvrir l'actualité municipale, l'opposition parlait tellement du financement du tramway qu'à un moment donné, ça devient redondant. Là, on arrive à un point qu'étant donné que le financement du fédéral s'est réglé, l'opposition ne va pas pouvoir arriver puis parler de ça à chaque point de presse.
Non.
On l'a réglé. On va donc devoir trouver d'autres sujets, d'autres points sur lesquels on va se concentrer. Puis honnêtement, je pense que ça va être pour le mieux pour la Ville de Québec.
Ça va être pour le mieux. Stéphane Lachance, c'est disponible sur blvd.fm qui était dans Marceau le matin cette semaine, qui disait justement que son équipe de recherche travaillait fort en itinérance, travaillait fort pour l'Hôtel Dieu de Québec. Donc, tu sais, s'informer, aller chercher justement du data, puis ça va être le gros défi de l'opposition dans la prochaine année, c'est d'aller chercher du data autre que le projet pour lequel on s'est fait élire, c'est-à-dire être anti-tramway. Et c'est là qu'on va voir de quel bois il chauffe, là, justement.
On a bien gros critiqué le projet de tramway, beaucoup des feux de foyer, mais ça semble être les deux sujets sur lesquels on a vraiment été capable d'aller chercher de l'attention médiatique, d'aller chercher l'attention des citoyens. Là, on va devoir se diversifier, c'est sûr.
En plein ça. Question de Martin qui est super pertinente. Ça ne concerne pas le maire Marchand, mais j'ai la réponse, donc je vais y répondre. Combien de pourcentage de l'argent va à l'itinérant direct? 90 % ça doit être des salaires des édifices. Hey, non, Martin, honnêtement, là, ben, c'est sûr que ça va inclure quelques salaires d'intervenants parce qu'on considère que l'intervenant qui va accompagner l'itinérant, exemple,
direct,
pour régler sa toxicomanie, pour faire en sorte qu'il est accompagné dans un logement supervisé, ça compte comme un service direct. Mais sache qu'en coût administratif, là, mettons, on prend les bâtiments, l'électricité, le salaire de la secrétaire, de l'adjointe administrative à l'Aube-Rivière, c'est 15 %. Fait que c'est 85 sous sur 1 $ qui s'en va directement en service direct à l'itinérant. itinérants. Donc, que ce soit la bouffe qu'on offre, que ce soit l'intervenant qui travaille avec. Fait que c'est très, 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 très payant de faire des dons en itinérance. Je vous dirais, les organismes en itinérance, comme les organismes, là, Bruno Marchand a parlé des parcs vacances été, là, des PVE, c'est les organismes à l'heure actuelle qui sont le mieux gérés justement pour le rapport qualité-prix sur le fait que si je fais un don, ça va vraiment directement aux gens. Continuez à interagir au 418-971-1021. On vous lit. On est content d'avoir posé vos questions. Vous aviez des super bonnes questions, auditeurs et auditrices. T'sais, honnêtement, mon mois de juin, là, je salue Simon d'avoir parlé de déneigement. J'y aurais pas pensé. T'sais. Steve, sa question était super pertinente sur Québec-Lévis. Pis on va continuer à mettre de la pression là-dessus, justement, pour qu'on devienne cette grande zone économique qu'on souhaitant depuis plusieurs années. Courte pause et par la suite, Farnell Morisset vient s'installer en studio. Farnell va venir s'installer comme candidat dans la circonscription de Taschereau au niveau du Parti libéral du Québec. Je le sais, vous l'avez connu à Boulevard 102.1 comme justement chroniqueur, comme vulgarisateur d'actualité. On veut lui poser des questions justement sur Québec. On vient de parler de deux gros sujets, tramway et itinérance. Comment justement le Parti libéral du Québec va voir ça? Mais... en fin d'entrevue, Mathias, on se servira de l'ami Farnell comme chroniqueur. Je veux qu'il me parle dans ses compétences de juriste du fait que là, Donald Trump a retiré son fameux 1,5 milliard de dollars qu'il avait promis pour les Américains qui étaient victimes de harcèlement judiciaire, voire ceux qui avaient justement qui avaient fait l'insurrection du Pentagone. Donc, on va poser une petite question à Farnell là-dessus. En fin d'entrevue, restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Encore une fois, merci, chers auditeurs, auditrices, d'avoir interagi de cette façon avec le maire Marchand. Il y en a plusieurs qui disent « Hey, merci, Jeff, donc bien cool, t'as passé ma question. Hey, merci de nous faire participer comme ça. » Oui, pour moi, pour Mathias, c'est très, très, très important, la voix du peuple.
Ça fait partie de l'exercice démocratique.
Exactement. On a posé les questions que vous nous avez demandé de poser au maire Marchand. Comme ça, on ne pourra pas se faire taxer, Mathias, de ne pas avoir posé les bonnes questions. Non, c'est pas vrai. Non, on le fait parce qu'on y croit. Non, je le fais parce que j'y crois. Vous avez des préoccupations dans votre secteur, vous avez des préoccupations personnellement en raison, justement, de prise de décision de politiciens. Alors, c'est important de vous laisser une place et c'est pour ça que je tenais à faire l'entrevue de cette façon-là. Circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, capitale direction Est en ce moment entre Pierre-Bertrand, ça remonte jusqu'à boulevard Neuvial. En ce moment, c'est au rouge. Également, Laurentienne Sud pour prendre capitale. Léger ralentissement à prévoir. À hauteur de Taniata, sur Taniata, en fait, à hauteur de rue Sainte-Hélène, c'est encore une fois difficile. Mm-hmm. C'est en travaux dans le secteur. Donc, tout au long de la journée, c'est du pare-choc à pare-choc. Il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021, c'est par texto.
Vous rappelez qu'il fait 28 degrés, c'est ensoleillé. Demain, ce sera la même chose. 28 degrés, généralement ensoleillé. Vendredi, 21 degrés nuageux. Et peut-être de la pluie à 60 % 22 degrés pour samedi. Bon, on va vivre un moment spécial parce qu'il était chroniqueur avec nous à chaque vendredi, le midi. Et là, maintenant, on l'interview à titre de candidat du Parti libéral du Québec dans Taschereau. Farnell Morisset, comment vas-tu?
J'ai comme l'impression que c'est un vendredi. Là.
Ouais, c'est ça, hein, exactement. C'est juste un peu plus tard. Moi, je dis toujours, Farnell, je vais me permettre de t'appeler Farnell.
Oui, oui, oui. Ça serait bizarre autrement.
Ouais, que je t'appelle Monsieur Morisset. De toute façon, quand les auditeurs me connaissent là, maintenant, Boulevard 101, quand j'interviewe un politicien que je connais personnellement, je l'appelle par son prénom, puis c'est bien de même, puis c'est bien correct de même, puis je me permets de poser des questions. Mais de toute façon, comme vous venez de le voir avec le maire Marchand, de la façon que je pose mes questions, je les pose toujours avec énormément de respect, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent en politique. Farnell, premièrement, première question bien simple, comment va la campagne? Comment tu trouves ça? C'est ta première campagne électorale, es-tu surpris de choses? Y a-tu des choses que tu fais, ça va mieux que je pensais, d'autres choses que tu sais, je pensais pas pantoute que ça fonctionnait de même. Comment ça se passe une campagne électorale?
Ben, j'ai déjà été bénévole, j'ai été directeur de campagne dans des campagnes dans le passé pour des amis, pour d'autres candidats. Mais ouais, quand c'est moi le candidat, c'est vrai que c'est différent.
Ouais, c'est différent.
Mais tu sais, il y a des ajustements, c'est sûr. Dans l'ensemble, ça va super bien. Mais quel cadeau incroyable que n'importe qui peut se faire à se dire, moi, là, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, ce que je vais faire, je vais aller parler aux gens. puis je vais aller leur demander c'est quoi leurs besoins, puis on va voir là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis en plus, particulièrement, la conjoncture actuelle est super le fun parce que normalement, en politique, un parti aurait déjà à peu près canné son programme.
Rendu en ce cas.
Alors, tu, c'est bien beau de dire on va aller rencontrer les gens, on va leur parler, là, mais je veux dire, le programme, il serait normalement déjà fait.
Mais là, vous autres, votre chef, il vient d'arriver?
Ben, c'est ça. Alors, le programme, il est encore en train de se bâtir. Ce qui veut dire, c'est un peu plate parce que des fois, je vais faire des entrevues puis je suis obligé de dire, ah, ben, tu sais, on est encore en train de développer le programme là-dessus. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment le fun. T'sais. Ce matin, j'avais une réunion avec un organisme communautaire, puis je les écoute, puis je leur demande c'est quoi vos besoins, puis après ça, je peux réellement me virer bord puis pousser ça pour que ça rentre dans une plateforme ou que ça ait de la place en tant qu'engagement local parce que les engagements ne sont pas tous déjà prêts. On est vraiment en train de le faire.
Y a-t-il des choses que tu découvres de la circonscription de Taschereau que tu ne pensais pas?
C'est une belle circonstance. Je sais que tout le monde dit ça, c'est un cliché, mais ce que je trouve vraiment intéressant...
Ben moi, j'adore, Taschereau, c'est de la mixité
ben
à côté.
Exactement.
Là. Taschereau,
moi, t'as la rue des Braves et puis t'as Saint-Roch.
C'est ça.
T'as le Vieux-Québec puis t'as Binox. Tu sais, c'est... je veux dire, t'as le Québec au complet, c'est... sauf peut-être le secteur agricole.
C'est ce que j'allais dire. C'est une société en soi dans une circonscription.
Ouais. Alors, il ne faut pas s'imaginer que les enjeux... ça n'existe pas, un enjeu qui ne touche pas la circonscription de Taschereau. Il n'y en a pas. C'est un excellent monde pour comprendre le Québec au complet.
Votre congrès en fin de semaine, ça sert-tu justement à faire votre plateforme électorale?
À l'avancer, certainement, beaucoup. Tu vas avoir aussi toutes sortes d'annonces, tu vas avoir des annonces de candidats, évidemment.
Ben
c'est super excitant. Puis c'est aussi une bonne place pour beaucoup d'entre nous de se rencontrer entre nous. T'sais, je pense surtout aux nouveaux candidats, dont moi. Je ne connais pas encore tout le monde. Alors, ça va être une super belle opportunité pour faire ça, faire avancer le programme, se parler entre nous. Et puis aussi, je veux dire, juste généralement, voir où est-ce qu'on s'en va. Puis vraiment, comme je disais, là, la plateforme est encore plastique. Il y a encore vraiment beaucoup d'opportunités pour faire avancer des dossiers.
On a la chance à Boulevard 101, en Marceau le matin, un mercredi à peu près par deux semaines, d'avoir Marois Risky qui vient s'asseoir avec nous à 7h30. Maintenant qu'elle est...
Quelle chance!
Ouais, c'est ça. Maintenant qu'elle est députée indépendante, elle peut sortir de la ligne de parti, je vais dire ça comme ça. Puis elle m'a dit, ouais, oui, Farnell m'a appelé quand il voulait se présenter en politique.
Absolument.
Vous êtes parlé de quoi?
Ben, on s'est parlé, entre autres, de la ligne de parti.
T'es pas un gars ben ligne de parti, toi, là.
Ben, je veux dire, moi, je l'ai jamais caché. Puis une des choses que j'ai beaucoup appréciées de Charles Meilliard puis du Parti libéral, je leur ai dit, écoute-moi, là, la ligne de parti, là, je reste... Il y a deux types de lignes de parti. Il faut faire une distinction. Tu as la ligne de parti où, suite à des négociations dans lesquelles tout le monde a été entendu, des discussions où tout le monde a pu mettre son point d'avant, il y a eu une décision qui a été prise, mais tout le monde a réellement été entendu. Et puis, en échange de l'appui de tes collègues pour d'autres choses qui sont vraiment importantes pour toi, tu es prêt à dire, OK, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je vais t'appuyer, je vais t'aider dans ton projet parce qu'il faut... Tu peux rien faire tout seul en politique. Ce genre de ligne de parti-là, je suis généralement plus confortable avec.
Okay.
La ligne de parti où je suis vraiment pas confortable avec, c'est du top-down. C'est quand le chef dit, écoute, c'est ça parce que je le dis, puis je suis le chef. Moi, ça ne m'intéresse pas. Des affaires de ligne de parti où il y a des votes Bayon qui passe à 2h du matin pour un projet de loi que ça fait même pas 24 heures qui a été déposé. Là. J'ai hâte que quelqu'un essaye de m'imposer ça.
François, justement, parle, t'es un juriste, puis il nous pose la question, il dit, hey, l'UPAC enquête encore. Il arrive quoi si l'UPAC dit le Parti libéral est coupable? Tu fais quoi, toi, en tant que juriste?
Ben, la première chose, c'est l'enquête actuelle, de ce que je comprends.
Ouais.
Et puis, je précise de ce que je comprends parce que j'ai pas le secret de l'enquête, puis ça serait vraiment inapproprié que je l'aie ou que qui que ce soit l'ait.
Bon, oui.
C'est que ça touche des choses qui étaient en lien avec une course à la chefferie. Et toutes les personnes qui sont sous enquête ou qui sont impliquées, parce qu'une des personnes, c'est Marois, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'enquête ne sont pas présentement avec le Parti libéral.
OK.
Et ont été exclus s'il y a quoi que ce soit, s'il y a eu des accusations ou s'il y a eu des blâmes. Alors, tu sais, je comprends que dans l'imaginaire populaire, ce qu'on dit, c'est l'UPAC fait enquête sur le Parti libéral, mais l'UPAC fait enquête sur des choses en lien avec une course à la chefferie avant que cette personne-là soit chef et des ajustements qui ont été faits par des gens qui ne sont plus avec le Parti libéral.
Avec le Parti
libéral. Avant que je me joigne, une des choses que j'ai demandé à Charles Meilliard, c'est moi, je veux voir, tu sais, il y a un processus, il appelle ça le feu vert, là.
Oui.
Les partis font enquête sur les candidats. Moi, je veux faire mon feu vert à propos du parti. J'ai demandé tous les documents à propos de la première course à la chefferie. Le deuxième n'était pas encore disponible.
Oui.
Et puis, il m'a dit pas de problème. J'ai tout regardé. Et puis, si j'avais pas été en confiance, j'aurais pas fait le geste que j'ai fait maintenant.
Fait que là, ça t'a mis en confiance de voir les dossiers. Hey, grosse annonce hier, 11 milliards qui descendent du fédéral pour la province de Québec. Bon, ici à Québec, évidemment, comment ça vient protéger le financement du tramway pour le projet qui est à 7,6 milliards. Advenant dans le cas que le projet dépasse, tu sais, qu'on arrive, exemple, à 9,5 milliards, comme pour le REM, ce qui est arrivé en 2024, le gouvernement libéral, est-ce qu'il va payer la différence s'il est élu au pouvoir?
Je peux pas répondre pour le gouvernement libéral au complet, mais moi, je pense que le projet de tramway, c'est un excellent projet. Je crains que ça a tellement longtemps bretté dans manche que s'il y a des dépensements de coûts, c'est que...
Tout ce qui traîne finit par un dépensement de coûts.
Présentement, il n'y a aucune indication que c'est le cas. Présentement, je vais être clair, on est dans l'hypothèse, OK? Il n'y a pas de raison de croire que ça va se faire. Mais si ça se fait, je ne pense pas que c'est pour économiser un quelques points de pourcentage ici et là qu'on devrait mettre le sable dans le projet. Là. Moi, je pense que le tramway, c'est un excellent projet. Je veux dire...
Fait, toi, tu militerais. Là. Supposons là, on se met dans le caucus libéral. Puis là, Charles Milliard, qui est le premier ministre, dit « On fait quoi avec ça? » C'est rendu à 1 milliard de plus, mais toi, tu militerais pour dire « On y va, go, on fonce. »
Ben moi, je militerais pour qu'on respecte la volonté des électeurs de la Ville de Québec qui se sont prononcés, je pense, assez clairement dans l'élection, la dernière élection à la mairie.
Tu le vois avec l'élection municipale.
Puis je sais qu'il y a eu des sondages depuis, là, mais ça, c'est un peu comme quand tu décides entre dire « Je veux me mettre en forme » puis aller au gym. C'est sûr que quand tu es au gym, tu es un peu moins content, là, mais tu es tellement plus content quand tu es en forme après. Je comprends là, que
j'aime ton analogie.
Ça bouge les sondages, mais je veux dire, à quelque part, là, moi tu le sais, là, je suis un grand croyant dans la responsabilité municipale. Le gouvernement municipal, l'administration municipale a pris une décision qui a été appuyée de façon, je crois, très claire par la population du Québec. Si on veut avoir des municipalités qui ont la force d'agir, il faut que le gouvernement provincial les appuie dans leurs décisions. Puis moi, c'est ça que je vais respecter.
Je reviens sur un autre grand projet de la région de Québec qui est le troisième lien. Je t'ai déjà entendu dire, je vois pas Québec avec seulement 2 ponts dans 50 ans.
Donc, j'avais dit 100 ans, je pense.
100 ans, bon.
Mais quand même.
Je m'excuse d'avoir dit 100 ans.
Mais tu sais, je veux dire, peu importe. Là, moi, c'est ça. Je pense que c'est ça. Comme je dis, quand j'imagine la région dans 100 ans, mettons, j'imagine très mal que c'est une région qui n'a pas une espèce de transport structurant beaucoup plus clair, beaucoup plus étendu. Selon moi, le tramway, c'est l'étape 1 de quelque chose que j'espère qu'on va continuer à bâtir par la suite.
Oui, moi, j'ai toujours dit, tant qu'à le faire, faisons-le donc complet.
Ben, c'est ça, oui.
C'est censé passer sur le Bourgneuf, mais qu'à le faire, go.
À mesure qu'on le fait, puis la population réalise que du transport structurant, c'est le fun, puis on aime ça, puis on embarque, puis on l'utilise, ça va être plus facile d'en faire d'autres et d'autres.
Puis à l'inverse, je me dis, coudonc, vierge. Ça fait 10 ans qu'on chicane pour faire un pont. Ça va pas être si compliqué faire un pont, là.
Tu sais, alors, ça revient à ce que je disais, là, quand j'imagine la région, puis c'est pas juste Québec, c'est Québec-Chaudière-Appalaches, puis moi aussi, c'est la Côte-Nord, puis le Bas-Saint-Laurent, tu sais, tout ça va être affecté par ça. Éventuellement, il va en falloir un. Est-ce que ça veut dire que dogmatiquement, je vais dire, il faut absolument, je vais cogner mon poing sur la table puis dire on va le faire à telle date, coûte que coûte, peu importe, parce que non, on fait pas de dogmatisme là-dessus. Là, c'est un projet d'infrastructure. On va le traiter comme n'importe quel autre projet d'infrastructure. On va le faire de façon intelligente quand ça va être le temps
mais
de le faire.
Mais t'es en faveur.
Mais je veux dire, oui, je vais pas mettre des bâtons dans les roues là-dessus par pure idéologie, tout comme je vais pas pousser par pure idéologie pour absolument le faire avant telle date pour faire plaisir à une certaine base électorale, disons.
La position de ton parti, du Parti libéral là-dessus, est-ce que c'est justement cette position-là de dire qu'il faut garder la réflexion, mais pas le faire nécessairement tout de suite, ou c'est de le faire le plus rapidement possible?
C'est pas de le faire le plus rapidement possible. C'est un projet d'infrastructure.
C'est de garder la réflexion, puis de le faire éventuellement.
C'est ça. Comme je disais, c'est un projet d'infrastructure. Les projets d'infrastructure sont à leur meilleur quand ils ne sont pas hyper politisés. Puis malheureusement, on a eu un gouvernement qui a beaucoup, beaucoup politisé l'enjeu.
Ben, on va être sur une quatrième campagne électorale avec comme promesse du troisième.
C'est ça. Tu sais, je faisais la vieille blague, je pense que c'était l'époque du Plessis, que tu pouvais faire 3 élections sur un pont. Là, ben, on est rendu à 4. ce qui m'énerve, c'est que la surpolitisation du dossier d'un côté amène à une espèce d'hyperpolitisation de l'autre côté aussi. De la même façon où je ne suis pas prêt à dire il faut absolument un troisième lien en telle date, je ne suis pas prêt à dire non plus qu'il y a sous aucune situation, condition imaginable, on va avoir un troisième lien non plus. C'est un projet d'infrastructure. Un projet d'infrastructure, on gère ça selon le besoin. Puis on gère ça, on a une panoplie d'experts qui sont là pour nous conseiller, pour nous aviser.
Pour toi, est-ce qu'il y a un besoin présentement?
Il va y avoir un besoin éventuellement. Et puis, je pense que c'est pas quand... on sait que ça prend du temps à faire des projets d'infrastructure, c'est normal. C'est pas quand on en a besoin criant demain matin qu'il faut commencer à le faire.
Payage, pas payage?
Ça, selon moi, ça dépend de la capacité de payer du gouvernement. Je veux dire, moi, je suis dans Tachereau. Je vois dans Saint-Roch des gens qui ont des besoins criants maintenant.
Ouais.
J'aurais vraiment de la misère à les regarder dans les yeux puis dire... non, c'est 100% le gouvernement qui va payer pour un pont de telle place à telle place quand il y a d'autres options, ce qui inclut potentiellement des options où il y a un péage où c'est fait avec le privé, comme on l'a fait à Montréal, par exemple, et ça fonctionne relativement bien.
Tu parles de besoin criant dans Saint-Roch, chemin itinérance, les jeunes nous en parlent énormément.
On peut pas en parler. Je suis tellement content qu'on en parle, ben cette élection-ci, parce qu'on a trop laissé traîner ça.
Vraiment, je suis très d'accord avec toi.
Je dis laisser traîner, je suis pas du tout en train de dire que les gens sont le problème, c'est la situation politique, économique et sociale qu'on a créée pendant trop longtemps, à regarder ailleurs, à ne pas en parler. C'est ça qui nous amène à la situation où c'est nos voisins présentement, c'est des concitoyens comme nous qui ont droit au même respect, qui ont les mêmes droits, qui sont égales en valeur humaine, qui ont besoin d'aide.
Présentement, c'est quoi tes pistes de solution?
Comme je disais, la plateforme est plastique présentement. Ouais. Je suis en train de travailler très fort sur quelque chose qui permettrait aux organismes communautaires d'avoir un financement pérenne qui ne dépend pas de programmes de tel ministère puis de tel ministère. Ah. Ce qui permettrait aux organismes communautaires, après ça, d'être des acteurs économiques. Et ce qui ferait qu'ils ne sont pas toujours obligés d'espérer que dans 3 mois, ils vont se faire renouveler un budget parce que ça ne fonctionne pas pour eux d'être toujours en espérance, jamais avoir de la certitude, être obligés de brûler leur monde puis de toujours avoir du roulement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça coûte extrêmement cher essayer de fonctionner de même. Il faut des solutions. Je suis en train de travailler là-dessus, mais malheureusement, je peux pas.
Me détailles déjà ta pensée et je suis en accord avec toi. J'ai déjà été directeur financier d'un organisme à but non lucratif. Puis ce que je décriais, c'est qu'il y a peu d'argent donné à la mission et énormément d'argent donné par projet.
Ben, c'est ça, parce que c'est super le fun pour un ministre pouvoir dire « Ah, j'ai accordé la semaine passée, à la une du journal, il y avait tel problème, j'ai accordé X montant.
Ben, »
Ça peut pas
Mais là, souvent, le projet répond pas aux besoins que mais tu as besoin d'argent.
Les organismes communautaires ne sont pas des soumissionnaires.
Mais non, c'est ça, exactement.
Traiter les organismes communautaires de même, c'est irrespectueux.
Parfait. Respect du français.
Oui.
C'est un gros dossier. Débat, gros dossier au niveau du Parti libéral. Ici, en studio à Boulevard 102, on a l'impression que c'est le caucus libéral de Montréal qui gère le français. Il va arriver quoi si les libéraux sont au pouvoir? Est-ce qu'on va protéger notre langue?
Il faut absolument protéger notre langue. Pour moi, c'est une... Je veux dire, quand je vivais à New York, puis j'ai décidé de faire des vidéos en français sur TikTok, puis j'ai commencé de même. J'ai choisi le français. La difficulté présentement, c'est que j'ai l'impression que c'est rendu un espèce de sifflet tellement facile, là, le français, qu'on en perd un peu l'intelligence derrière le dossier. Tu sais, il y a des problèmes à géométrie variable à travers le Québec, et puis on a...
Oui, t'es Montréal est différent qu'ailleurs.
Les réalités sont pas du tout les mêmes, mais parce que c'est un sifflet qui est facile... Le gouvernement puis d'autres groupes politiques décident, écoute, on va faire du mur à mur. On va appliquer une nouvelle loi forte qui va s'appliquer pareil partout. Puis je comprends qu'il y a des enjeux à Montréal. Je vais souvent à Montréal, puis c'est vrai qu'il y a des enjeux, mais c'est pas parce que tu as de la misère à avoir du service en français sur la rue Crescent qu'il faut adopter des lois qui vont rendre ça plus difficile pour une jeune pousse dans Saint-Roch qui veut utiliser le seul logiciel qui existe dans leur domaine, qui est en anglais, puis il va falloir qu'ils payent 10, 15, 20 000 piastres pour le faire franciser. Ça marche pas parce que, de un, ça protège pas vraiment le français faire ça. C'est pas la solution au problème. C'est une espèce de solution qui est là pour que le gouvernement puisse donner l'impression qu'ils sont en train d'agir parce que ça fait plaisir au monde de leur dire on tape fort, mais tu tapes pas sur le bon monde. Puis le problème, c'est que les gens sur qui tu tapes, après ça, eux viennent à associer la défense du français à des pertes économiques, quand ça devrait jamais être ça. La défense du français, c'est un positif, c'est une opportunité économique si on le fait correctement, mais il faut le faire de façon sensible aux besoins des gens. Puis si on le fait correctement, les gens vont vouloir protéger le français, pas juste par amour pour le français, mais en plus parce que ça leur remplit les poches, ça fait du développement économique, c'est bon pour tout le monde.
Fait que t'es dans l'adhésion avec ton chef, justement, qui dit on va apporter certaines modifications au niveau, là, justement, des entreprises pour ce qui est de la loi 101, de la loi de protection.
C'est pas juste aux entreprises, je pense que cette loi-là, puis j'en ai parlé souvent, a aussi des enjeux de protection de vie privée qui m'inquiètent beaucoup. On parle quand même, c'est une loi qui permet des fouilles et des saisies sur nos téléphones, sur nos cellulaires, dans nos autos, sans mandat dans certains cas. Je veux dire, ça défend pas le français non plus.
Oui, OK, je comprends très bien. Hey, je termine en te demandant de remettre ton chapeau de chroniqueur 2 secondes. Donald Trump qui se fait renverser son fonds d'investissement de 1,5 milliard pour les gens harcelés par le système judiciaire. C'est preuve que les contre-pouvoirs fonctionnent vraiment aux États-Unis.
Oui, je t'entendais tantôt, puis je veux dire, c'est quelque chose que moi-même, je le dis souvent, t'sais, comment est-ce que on va se tenir, comment est-ce qu'on va s'en sortir avec les États-Unis? Tout le monde le sait, là. C'est maintenant, on sait comment est-ce qu'on fait pour, je ne veux pas dire battre les États-Unis parce que ce n'est pas ça le but, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les États-Unis quand ils sont dans des passes un peu plus difficiles? C'est on résiste et on attend.
Vraiment?
C'est ça. Alors, C'est exactement ce qui se passe. Les gens des États-Unis, là, c'est pas du mauvais monde. C'est les mêmes qui étaient là il y a 5-6 ans, c'est les mêmes qui étaient là il y a 2-3 ans, puis c'est les mêmes qui vont être là à l'avenir. C'est des gens qui veulent... C'est pas du monde qui se lève le matin puis qui pense tous comme Donald Trump. Bien au contraire, on est en train de le voir. C'est juste que la façon que la structure de pouvoir aux États-Unis fonctionne, il y a une branche exécutive, la présidence, qui est capable d'agir très rapidement, et... Il y a après ça la branche législative et la branche judiciaire qui n'est pas capable d'agir aussi rapidement, mais quand elle agit beaucoup plus fort. Puis c'est ça qu'on est en train de voir présentement. Il faut juste avoir confiance que les gens, nos voisins aux États-Unis, c'est des fois des gens qui se font prendre dans des paniques ici et là, mais éventuellement, c'est Winston Churchill, je pense, qui disait, je vais le traduire en français, on peut faire confiance que les gens des États-Unis vont faire la bonne chose après avoir essayé tout le reste.
Ouais.
Alors, ils sont en train d'essayer tout le reste puis réalisent finalement là, ce qui fonctionne, c'est ce qui a toujours fonctionné. On va éventuellement mettre le frein sur ces espèces de dépassements-là qu'on est en train de voir présentement. Puis j'ai grandement confiance que notre relation va se rétablir.
Fernel Morissette, bonne continuité de campagne électorale.
Merci
d'être venu en ondes à Boulevard 102. On va te suivre attentivement puis on va te réinviter en entrevue.
Quand vous voulez, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai écouté aussi le maire Marchand qui a une espèce de deal avec vous qui vient une fois par mois.
Oui, c'est dans Gravel, dans le retour.
T'as une exclusivité, mon premier engagement électoral. Là, hein? Si je suis élu, je
vais venir une fois par mois dans l'émission On en jase.
Une fois par mois, si tu veux, je viens.
Ben
ça
oui.
Puis si tu veux, on fera ça le vendredi.
Écoute ça, Mathias, le vendredi, une fois par mois, Fernel Morissette avec nous, puis on va jaser politique.
De retour.
On va s'assassiner sur le troisième lien.
Non, mais tu sais, parler au monde, c'est important.
Ben oui.
J'aime ça, je découvre que j'aime ça. Ça fait qu'on va continuer.
Ah ouais, ben moi, ouais. Je le savais pas mal que t'aimais ça avant, là, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ah, il y a un auditeur qui dit dommage que tu aies choisi le Parti libéral. Il n'est pas libéral.
Ben, écoute, un parti politique, c'est les gens qui le forment. Hein? Alors, je veux dire, moi, je ne regrette pas mon choix.
Ouais, exactement. Fernel Morissette, merci beaucoup.
Merci.
On s'en parle bientôt.
Salut.
Au retour de la pause, Block News. Et on revient sur ce premier match de la série finale de la Coupe Stanley entre les Golden Knights de Vegas et les Hurricanes de Caroline. Victoire de Vegas 5-4. Jusqu'à... Émission en jase qui tire à sa fin. Il est présentement 13h49 minutes. Le retour de Gravel va suivre à 14h et c'est Marceau le soir de 18h à 19h. On se lance en manchette avec Mathias Turcotte et par la suite Alex Laramé bien installé pour parler de ce premier match de la finale de la Coupe Stanley. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Les États-Unis sont revenus avec des menaces de tarifs douaniers pouvant aller jusqu'à 12,5%. On voudrait viser des pays comme le Canada, la Chine, des pays de l'Union européenne et le Mexique. La raison, c'est que les économies des pays en question ne feraient pas suffisamment d'efforts pour combattre l'importation de biens issus du travail forcé. Ces tarifs douaniers en question ne sont toujours pas mis en place, mais on évaluerait l'option du côté de Donald Trump. Mark Carney a réagi aujourd'hui en disant que ce n'était pas une surprise et que les États-Unis planifient de tout depuis maintenant 30 jours. En parlant du premier ministre du Canada, il a demandé au CRTC de revoir à la baisse ses redevances supplémentaires qu'il voulait imposer aux géants américains comme Netflix et Prime Video. L'objectif, ce serait d'adoucir les relations Canada-États-Unis en vue des négociations de l'ACEUM qui s'en viennent. La PDG du port de Québec, Olga Farman, a défendu son intégrité et son impartialité pour mener à terme les évaluations nécessaires au projet QSL. C'est dans une entrevue à Radio-Canada qu'elle s'est défendue à la suite d'une lettre envoyée à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada de la table citoyenne littorale S qui soulignait que Mme Farman siégeait au CA de CDPQ qui était aussi actionnaire à QSL, donc qui avait un conflit d'intérêts. De son côté, on a affirmé qu'on a trouvé ça déstabilisant, puis on tenait à rajouter sur la crédibilité de Mme Farman à mener à bien ses évaluations. Musique Plus effectuera son grand retour, mais pas à la télévision. Ça va être sur TikTok. C'est à partir du 11 juin qu'on va faire le lancement officiel. À ce moment-là, on va annoncer les différents créateurs qui seront présents. Je termine avec des nouvelles qui vont suivre au cours de la journée. Daniel Smith qui va rencontrer notre première ministre, Christine Fréchette. Également, une conférence de presse de la ville sur l'état des avancements des travaux Tramcité et des interventions dans Saint-Roch.
Tu y seras justement 17h dans le retour pour parler des travaux de Tramcité et demain matin, 7h30, dans Marceau le matin.
Il longe la rampe, revient, la passe, c'est une... Hertel, le tir de but! Quel échange! Thomas Hertel, quelle précision! Et avec 3-24 à faire, les Golden Knights sont devant 5-4.
On parle de ce premier match de finale de la Coupe Stanley avec Alex Laramée, notre chroniqueur sportif. Alex, il avait du talent au pied carré sur la glace hier. Wow, deux belles machines offensives. Un match de 5-4, c'était vraiment intéressant. Pourquoi on n'entend pas Alex?
Hop! Désolé.
OK, c'est bon.
Je suis là.
Excellent. Ben vas-y.
Écoute, c'est une finale qui promet là, après ce premier match-là, même si je pense qu'on va faire des ajustements défensifs là, des deux côtés. Là, je regardais ça, les Hurricanes, des échappés à pu finir. Je pense que John Tortorella a dû friser un peu durant ce match-là. Puis les couvertures défensives ratées, il y en a eu une puis une autre dans ce match-là. Mais avoir une game offensive, c'est toujours le fun. Puis les Golden Knights se sont pas écrasés, hein, même si les Hurricanes ont pris l'avance très rapidement là, grâce à deux buts de Nikolaj Ehlers. C'était très impressionnant de voir ces deux clubs-là, des belles machines de hockey.
Point tournant du match, selon moi, l'arrêt de Carter Hart sur Logan Stankoven en échappé alors que c'était 2-1 Hurricanes. T'en parlais, là, c'était revirement par-dessus revirement des Golden Knights. Barbashev revient avec un but rapide en début de deuxième période pour égaler 2-2. Et là, les Knights se sont replacés là, dans leur structure.
Ah ouais, 100%. T'sais, on voit que c'est une équipe d'expérience, une équipe qui est rodée. Les gars sont habitués de jouer des games de série. Puis tu sais, c'est les suspects qui sont toujours bons avec les Golden Knights. On a vu une grosse game de Shea Theodore, Ivan Barbashev. T'sais, quelqu'un qui est sous-estimé, mais en série, il se présente tout le temps.
Ah,
puis encore une fois, Brett Auden qui marque son 11e des séries. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça que tu as besoin en série. Tu as besoin de joueurs qui s'élèvent dans les grands moments, puis il faut croire que c'est son année là,
exactement.
Pour Brett Auden.
Ouais, parlant d'année, je regardais Mitch Marner encore jouer hier. Là. Il voit tout sur le jeu, mais à l'avance. T'sais, il sait déjà quand il y a la rondelle, où est-ce que la rondelle va aller. Et l'avantage numérique à 5 attaquants des Golden Knights, c'est hallucinant comment la rondelle se promène.
Ah oui, tu sais, ils ont peur de rien, puis tu parles de Mitch Marner. Tu sais, c'était vraiment une game mentale là, à Toronto qui l'empêchait de déclare à son plein potentiel, puis on dit ça, tu sais, il marquait presque 100 points par saison.
Ben oui.
Là. Mais là, tu sais, on voit à quel point ce joueur-là est intelligent sur la glace. Tu sais, sa passe qu'il fait, qu'il regarde même pas, puis boum, directement sa palette. Tu sais, il y a très peu de joueurs dans la Ligue nationale qui sont capables de faire ça, puis si les Golden Knights gagne la Coupe Stanley, définitivement, ça va être lui qui va avoir mérité le Conn Smythe.
Patrick Roy sera interviewé par les Maple Leafs de Toronto pour peut-être devenir leur entraîneur-chef. OK, Alex, j'y rêve parce que quelle rivalité on va avoir avec le Canadien.
Ben, je pense que, tu sais, je pense que tout le monde aimerait ça. Ça ferait bizarre là, de voir Patrick Roy là, avec un logo des Maple Leafs, je pense, pour tout le monde. Mais je pense qu'on aimerait ça, comme tu l'as dit, pour la rivalité que ça pourrait créer. Il y aurait de l'animosité en partant. T'sais, un Martin Saint-Louis d'un côté, Patrick Roy de l'autre côté, ce serait super polarisant. Puis honnêtement, je pense que c'est un peu le genre de coach que les Maple Leafs ont besoin parce que oui, ils vont avoir le premier choix, mais on ne semble pas se diriger vers une reconstruction. Là, on veut plus faire un reset. Puis Patrick Roy, c'est définitivement le genre de coach qui est capable de fouetter ses troupes. C'est le moins qu'on puisse dire.
Penses-tu que le fait qu'il ait très bien développé Matthew Schaefer, justement, va jouer en sa faveur?
Ben, je pense que ça peut aider. T'sais, Patrick Roy, ça reste un coach qui a coaché principalement junior là, dans sa carrière. On sait que c'est quand même un gars qui est dur, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais il a prouvé quand même qu'il est capable de développer des jeunes. Il sait parler aux jeunes. Puis avec les succès qu'on a vus, Matthew Schaefer, visiblement, c'est McKenna là, qui va débarquer à Toronto. Donc, je pense que oui, ça peut faire partie des réflexions là, du côté de l'état-major des Maple Leafs.
Alex Laramée, merci beaucoup. On se parle vendredi pour le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley.
Yes, toujours un plaisir.
Salut Alex. Vous mentionnez que Félix Auger-Aliassime, malheureusement, son parcours s'est terminé en quart de finale à Roland-Garros. Une défaite de 6-4, 4-6, 4-6, 4-6. Donc, un match où il y a seulement eu un bris de service par 7. Mathias, on se parle demain?
Yes, sir.
Je te souhaite une excellente conférence. Tram Cité.
Bonne
va voir notre mère.
Oui, bonne journée à tout le monde.
Yes.
Puis on se voit tantôt dans le retour à 17h.
Et voilà. Salut Mathias Turcotte. Le retour de Denis suit à l'instant même sur Boulevard 102.1.